Vous écoutez présentement dans vos douces petites oreilles. J'ai du temps pour discuter. Merci d'être là.
Ouais, c'est J'ai du temps qui discute. Ouais, c'est J'ai du temps qui discute. Ouais, c'est J'ai du temps qui discute. Ouais, c'est J'ai du temps qui discute.
Catherine Morassi, je suis vraiment heureux que tu aies accepté mon invitation. En arrivant, juste avant qu'on ouvre les micros, tu disais que pour toi, c'était comme un saut en bungee.
Oui.
Comment ça?
Ben parce que je sais pas pourquoi j'ai accepté. C'est toujours la même chose. Mais c'est pas la première fois, là. Souvent, je vais avoir des invitations, je vais dire, mais pourquoi j'ai dit oui à ça, là? Pourquoi? Non? J'étais dans quel état d'esprit? Mais j'ai tendance à accepter les choses qui m'intriguent. Parce que je trouve quand même que je me mets dans des situations inhabituelles, là. Pas ma job en soi, je suis pas une personnalité, là. Je suis prof.
Mais
je trouvais que c'était drôle quand même.
Mais c'est la raison pour laquelle qu'on t'invite. Ouais. En fait, c'est exactement pour ce que tu fais dans la vie et aussi qui tu es, tout simplement, comme être humain. Mais pour les gens qui te connaissent pas, c'est parce que je veux pas l'expliquer, moi, ta job, parce que j'ai l'impression que je le ferais pas correctement. C'est quoi ta job?
Ouais, c'est drôle, mais je suis prof à l'université. Je suis prof à l'École polytechnique de Montréal. Mais je pense que moi, je le savais pas avant de devenir prof. Ça fait quoi un prof? C'est vraiment bizarre, là. C'est-à-dire que j'ai jamais pensé avoir une carrière académique. J'étais militante quand j'étais jeune. Il faut comprendre un peu aussi pourquoi, là. Puis j'ai comme transformé mon action en contribution scientifique pour soutenir la prise de décision. C'est vraiment bizarre. Fait qu'un prof, a priori, ça forme. Moi, je forme des ingénieurs, les futurs ingénieurs. Ça, c'est une partie de mon travail. Donc, quand les gens pensent que je tombe en vacances, quand la session finit, là, ils n'ont pas compris que ça, c'est comme 20% de ma job, c'est d'enseigner. Puis à côté, j'ai beaucoup de programmes de recherche que je gère, parce que je suis très financée pour faire des activités de recherche. Là. J'ai des chaires de recherche. Donc là, j'ai encore des étudiants de maîtrise, doctorat, des post-doctorants, des stagiaires d'un peu partout. Et après ça, j'ai le volet rayonnement. Donc là, je contribue à des conseils d'administration, la STM, l'Agence de mobilité durable. J'ai fait partie de... Là, j'organise des congrès internationaux. Je fais ce qu'on appelle les contributions à la société. Et selon le type de prof, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes niveaux d'activité, bien là, on répartit notre temps entre l'enseignement, la recherche et le rayonnement. Mais c'est les trois fonctions. Donc l'été, pour moi, c'est très intense, là, parce que là, on fait vraiment de la recherche. Là, j'ai plein d'étudiants qui sont en train d'écrire des articles. On a des contrats à livrer. Donc c'est ça.
Mais merci tellement
d'avoir, vacances.
D'avoir pris ton temps pour venir ici aujourd'hui.
Ouais. C'est ça.
Les gens pensent que moi, je suis occupé.
Non, c'est oui, mais s'occuper de la pandémie, c'était quand même étonnant, là, superviser des... C'est ce que j'expliquais aussi, enseigner à distance, c'était compliqué. Mais superviser les étudiants en recherche. Fait que là, il faut comprendre que quand quelqu'un veut faire une thèse de doctorat, il va être là-dessus pendant 3-4 ans. Il n'y a pas de cours. Donc là, tout se passe avec les interactions, avec les autres étudiants, mais ça, c'est disparu. Donc là, ça, c'est plus dur. C'est comme faire un travail autonome, tout seul, tout le temps, dans son petit appartement. Ça, c'est pénible pour les étudiants. Ouais.
C'est clair.
Ouais.
C'est clair. Mais j'aimerais ça qu'on ait ton histoire quand tu dis que tu as commencé par être une militante.
Ouais.
Comment tu es devenue militante?
Bonne question. Non, je pense que j'ai dû lire des livres dans ma jeunesse, comme L'état de la planète 1991. Et j'ai été impliquée dans les conseils étudiants au cégep. Je pense qu'au cégep, on n'est peut-être pas assez occupé.
T'as à quel cégep?
Au cégep de Sainte-Foy.
OK.
Je pense que j'étais pas assez occupée. Donc, j'étais dans le conseil étudiant. Puis on se préoccupait du recyclage à l'époque. Je m'en souviens. Gros dossier recyclage, la vaisselle réutilisable. Donc là, j'étais sur ces dossiers-là. Puis j'ai commencé à faire des stages à l'extérieur sur les transports.
Des stages où?
Des stages en France, en Belgique, pour étudier les réseaux de transport là-bas.
Mais là, tu faisais ça à 17 ans?
Ouais, oui, c'est ça, 17-18, là.
Fait que là, mais comment tu pognes un stage comme ça à 17 ans alors que t'es étudiant en sciences pures?
Ouais, non, mais c'est l'Office franco-québécois pour la jeunesse, l'Agence québécoise Wallonie-Bruxelles pour la jeunesse et des opportunités, là, avec des réseaux, mais je connaissais déjà des réseaux, des regroupements populaires à cette époque-là. Puis là, c'est des opportunités qui arrivent. Fait que évidemment, je dis oui.
Ton premier stage, c'était
en France.
Pour faire quoi?
Ça s'appelait insertion des transports en milieu urbain. Donc, je suis allée rencontrer des gens qui opéraient des réseaux de transport en commun. Mais j'ai été aussi impliquée, comme je pense que c'était à l'époque, ça s'appelait RTC, c'est actuellement, la CTCUQ, Commission de transport de la communauté urbaine de Québec. J'étais membre du comité d'insertion des voies réservées.
Bon, déjà à cette époque-là?
Oui, 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 jeune, là.
Fait que dans le fond, c'est pas surprenant ce que tu fais aujourd'hui quand même.
Non.
T'as toujours été impliquée dans l'idée des mouvements.
Les transports, ouais. Je sais pas pourquoi.
Humain.
C'est bizarre, ouais. Je
Alors
sais que c'est bizarre.
Alors que ton père est médecin.
Ouais.
Dans ta famille, y avait-tu ça?
Non. Je sais pas, ça sort d'où. C'est un peu bizarre. Puis je sais que c'est vraiment. J'avais les cartes des réseaux de métro dans ma chambre. Je sais pas ce qui est arrivé jeune. Il est arrivé quelque chose, là. Il m'est arrivé quelque chose jeune. Mais j'avais vraiment les cartes des réseaux collées sur mes murs.
Et à ce moment-là, c'était quoi ta réflexion par rapport à ça? Qu'est-ce qui te faisait triper là-dedans? T'sais, aujourd'hui,
ouais.
Tu vas nous expliquer ce que tu fais quand même comme enseignement, puis en recherche, puis en accompagnement.
Les étudiants qui font...
Mais à cette époque-là, ta réflexion par rapport au transport, c'était quoi?
Mais je comprenais pas pourquoi on n'accordait pas plus d'importance au transport en commun. Moi, je le prenais pour aller à l'université. Là, et d'ailleurs, je trouvais ça extraordinaire parce qu'à Québec, on était assis. Donc, j'ai lu des romans comme ça se peut pas pendant que j'ai fait mon bac en génie. Là, je lisais parce que ça me permettait de valoriser mon temps de déplacement.
Ouais.
Puis mes parents étaient quand même multimotorisés. Il y avait beaucoup d'auto à la maison. On était 4 enfants, là. Beaucoup d'auto. Mais moi, j'ai refusé d'avoir une auto. Je voulais me déplacer en bus. C'était vraiment drôle. C'était un peu bizarre. Mais je suis la dernière. Peut-être qu'il est arrivé quelque chose, là. Mais je sais pas. Fait que je sais pas, ça sort d'où. Mais je lisais beaucoup sur l'écologie à l'époque. Là. Dans les années 70, le mouvement écologiste, c'était quand même c'était marginal, mais ça existait déjà.
Ouais.
Il y avait les livres, les écrits de 1990. Déjà, on voit le pétrole, tous les impacts environnementaux associés au transport, à la mobilité, l'aménagement du territoire, c'est déjà là. D'ailleurs, c'est très déprimant aujourd'hui de relire les livres de 1990. C'est la même chose.
Ah, c'est sûr.
Donc, c'est sûr. Ça existait déjà. Fait que ça me préoccupait déjà, ces questions d'impact environnementaux. Beaucoup.
Et là, quand tu es allé en France pour ton stage, c'est la première fois que tu faisais une action plus d'études précises là-dessus.
Oui.
Puis qu'est-ce que tu as vu là-bas? Qu'est-ce que tu as appris?
Mais c'est la façon dont... C'est le rôle des réseaux de transport en commun. Il était plus avancé en France, en tout cas, que ce qu'on avait à Québec, du moins. Là. On voit encore Québec, ça, c'est pas toujours facile. Ça permettait de comprendre dans quelles conditions ces réseaux-là étaient implantés, quel type de mode ils mettaient en place. On rencontrait les opérateurs là, qui mettaient en place les réseaux de transport en commun. Hyper intéressant.
C'est sûr.
Oui.
C'est sûr, parce que là, tu sais, il y a plein de prises de décision. Aujourd'hui, on peut les prendre pour acquis, mais après ça, c'est comme, il y a un plan qui est fait, pourquoi ça passe comme ça?
Oui.
Et la plupart de ces décisions-là, c'est quoi les priorités? Comment ils prennent ces décisions-là, ces choix-là?
Bien, il y a une démarche scientifique qui peut être suivie, là. Après ça, il y a d'autres façons de prendre des décisions. Je pense qu'on le voit, là. Quand des gens annoncent des projets sans les avoir étudiés d'avance, on comprend qu'il y a une partie... moi, j'appelle ça l'impressionnisme, là. moi, je pense que c'est basé sur des impressions ou des pseudo-intuitions, là. C'est pas clair. Mais il y a des outils pour bien étudier les projets de transport.
Lesquels?
Je me suis déjà permis de tweeter que la planification des transports, c'était une science, puis qu'on l'enseignait à Polytechnique. C'est rare que je sois active sur les réseaux sociaux. Là.
Et là, qu'est-ce qui s'est passé?
C'est parce qu'à un moment donné, on aimerait bien comprendre les impacts de certains des choix qui sont proposés ou des options là, de trajet. Ça existe. C'est une vraie science. La science, la planification des réseaux, l'analyse des déplacements. Là.
C'est que c'est tellement plus complexe que ce qu'on pense. Puis on dirait que quand on pense à environnement, on va penser à voiture, mais on ne pense pas nécessairement... T'sais, oui, on va penser aux moyens de se déplacer, mais pas nécessairement à la science derrière ça.
Oui,
oui. Fait que là, mettons, à cette époque-là, t'as toujours été trippé là-dessus.
Oui.
Puis aujourd'hui, concrètement, mettons, qu'est-ce que t'en es rendu où dans cette
La différence entre les deux, hein? Quand je recule, là, j'ai juste pour faire une petite histoire, là, en 1992, il y a eu la réforme Ryan. Je commençais ma formation d'ingénieur.
La réforme Ryan, c'était quoi?
C'est le désengagement du gouvernement provincial dans le financement des réseaux de transport en commun. Il y a eu ça. Il y a eu une grève du transport en commun à Québec, en tout cas. Là, on avait lancé le comité régional des usagers du transport en commun, la semaine du transport en commun. Tu sais, je me souviens le T-shirt, là, un choix, une fierté. Ça se peut pas. Je pense qu'on s'ennuyait. Sérieusement, ça se peut pas.
Super
je veux dire,
impliqué, j'adore.
C'était comme bizarre, là, comme... J'étais bizarre.
Mais je trouve pas ça bizarre.
Ben à l'époque, je pense qu'on trouvait bizarre.
Mais sachant ce que tu fais aujourd'hui.
Non, c'est ça. Mais là, j'ai quand même compris le chemin, là. Mais c'était vraiment bizarre.
Est-ce que tu penses que le sentiment de te trouver bizarre à l'époque, c'est plus un sentiment de solitude de toi puis ta gang, de faire.
Ouais.
D'avoir un sentiment de hey, on pense que c'est vraiment important ça, mais personne porte attention à ça. Puis c'est souvent comme ça qu'on se sent bizarre.
C'est ça.
de pas se sentir écouté, de pas se sentir accepté, de pas se sentir d'empathie face
à... C'est de l'impatience. Oui. C'est-à-dire, mais c'est parce que c'est vraiment important, là. Puis, aujourd'hui, la différence, c'est que le domaine dans lequel je suis est devenu hyper populaire. C'est qu'avant, le transport, moi, quand je suis rentrée comme prof à Polytechnique, on était deux profs. Puis j'ai fait mon doctorat, j'étais la seule étudiante. Là, on a à peu près 40 étudiants d'études supérieures en même temps. On est rendu 5 profs dans le domaine, dans le programme de génie civil. Il y a des cours maintenant. Avant, il y en avait. Moi, j'ai fait ma formation, j'ai eu 0 cours en transport dans mon formation de génie civil.
C'était quoi tes cours?
Bien, structure, béton armé, hydraulique, géotechnique. C'est pas des choses que j'aimais beaucoup, là, franchement. J'ai pas nécessairement beaucoup aimé ma formation a priori. Mais quand j'ai compris que ça m'amènerait à faire ce que je veux...
Mais à ce moment-là, sachant que tu étais la seule étudiante, mettons, au doctorat, ce que tu voulais, c'était quoi? Puis est-ce que c'était quelque chose qui était peut-être pas si populaire?
Oui, comme je le répète, j'ai jamais pensé devenir prof, là. Je savais pas ce que ça faisait un prof. Donc, clairement, ça faisait pas partie de mes cibles là, dans la vie. Au début, je pensais aller faire des projets internationaux en génie conseil. Fait que j'ai travaillé dans génie conseil en transport.
Où?
Chez Roche-Deluc à l'époque.
OK. Qu'est-ce que tu as fait là-bas?
Ah, j'ai fait la signalisation d'une piste cyclable. Après ça, j'ai fait l'évaluation des impacts de l'implantation d'un réno-dépôt. Tu sais, c'est des petits projets, là. J'en ai fait quelques-uns, ça fait comme ça, là.
Est-ce que tu as aimé ça? Est-ce que tu as appris des choses?
Oui.
Qu'est-ce que tu as appris?
Ben, j'ai appris le volet très opérationnel des études d'impact, là. Mais j'avais jamais eu de formation là-dessus. Donc là, je suis allée faire ma maîtrise en transport à Polyte, qui est la seule place où il y a ça, là, au Québec, en génie. Et là, j'ai vraiment trouvé ça hyper intéressant.
Qu'est-ce qui t'intéressait? Là? C'était quoi les cours? Qu'est-ce que tu as appris là?
Ben là, j'ai fait un cours sur le transport, comme un cours de planification des transports, analyse des transports. Vraiment, vraiment le domaine qui m'intéressait, là, enfin.
Puis comment ils font ça, les transports en commun? Comment ils... Mettons, si on prend juste celui ici, là, parce que j'imagine que selon où on est dans le monde, les choix sont différents, là, mais...
Ben, c'est-à-dire que la façon dont on conçoit des réseaux, par exemple... Mais il faut d'abord avoir une bonne compréhension d'où les gens veulent aller, à quelle heure, quel type de personnes se déplacent. Il y a toute une théorie sur la façon dont les gens vont faire leur choix de déplacement. Puis après ça, on a des simulateurs. C'est-à-dire qu'on va soumettre cette population-là à des modes de transport différents. Puis là, ça va leur générer des coûts. On parle de coûts généralisés. C'est un peu compliqué, mais c'est comme la combinaison de plein de temps. Genre le temps pendant lequel je me déplace, le temps d'accès à un arrêt, le temps que je marche, le temps que j'attends. Bon, est-ce que je me déplace assis, debout? Il y a plein de paramètres qui vont changer le temps perçu de notre déplacement. Ça, c'est un peu notre critère d'évaluation de la qualité du trajet. Puis là, on va changer les réseaux, puis on va regarder combien de temps ça prend pour faire ces différents déplacements-là. Après ça, ça va nous permettre de calculer combien de gens qui vont être sur chaque corridor. Là, il va avoir ses choix. Quel mode on pourrait mettre, à quelle fréquence, et de quoi la capacité qu'on doit offrir. Fait qu'il y a beaucoup de concepts qui sont impliqués dans ces décisions-là.
Mais tout ça, c'est surtout au départ, c'est comment vous choisissez les chiffres s'il n'y a jamais eu de...
Oui, mais on dépend beaucoup des données qui sont disponibles. Fait que moi, il y a une partie de ma recherche là, qui est sur la collecte de données en transport. Là, il y a des grosses enquêtes qui sont faites. Bon, comme on a des recensements canadiens, il y a quelques questions sur le transport là-dessus, sur le mode de transport principal pour aller au travail. Mais il y a aussi des grosses enquêtes qui sont réalisées. Puis ça, c'est assez classique à travers le monde là, de faire des enquêtes sur la mobilité. Puis au Québec, on est reconnu internationalement pour la qualité des enquêtes qui sont faites. À chaque 5 ans, il y a des grosses enquêtes. C'est comme 70 000 ménages qui sont enquêtés dans la région de Montréal. Là, ça crée une espèce de base de données qui témoigne des besoins de mobilité dans la région. Puis on combine ça avec d'autres données, comme les petites cartes à puce, là, qu'on prend. Puis ça fait des belles bases de données aussi. Puis les GPS dans les taxis, ça fait des belles bases de données. Puis là, quand on fait une réservation au Bixi, bien, ça fait des belles bases de données. Les comptages, là, on met tout ça ensemble. Ça fait beaucoup d'ensembles de données qui permettent de témoigner de l'usage des réseaux.
Fait que la technologie a été un gros game changer pour vos études à vous, parce qu'avant, ça devait être du téléphone, du porte-à-porte. Là.
Oui. En France, on est encore beaucoup dans le porte-à-porte. Les enquêtes, c'est beaucoup téléphonique. Là, on a migré vers le web. Mais c'est sûr qu'on traite... des fois, je le dis en génie, là, on fait du traitement de base de données. Beaucoup. Puis on modélise des choses compliquées. On modélise des individus.
Oui.
Ouais. Ça, c'est compliqué.
Mais c'est clair.
C'est pas un bloc de béton, là. Fait que des fois, je le dis dans mes cours, là. T'sais, si vous pensez que le béton, c'est compliqué, là, on contrôle la température, l'humidité, la composition. Tu sais quelle force tu mets dessus. Tu regardes quand est-ce que ça flanche. Mais nous, on modélise vos voisins, là. Êtes-vous capable de prévoir ce qu'il va faire demain? Ça, c'est ce qu'il faut que je fasse.
C'est très drôle. C'est fascinant, par exemple.
Oui.
C'est vraiment fascinant. Puis ça a un rapport direct avec l'environnement.
Oui. Oui, parce qu'on dépend beaucoup des comportements. C'est ça qui... J'ai, par exemple, dans mon équipe, j'ai un étudiant dont la thèse de doctorat est sur la dépendance à l'automobile.
Ah, wow!
Donc,
c'est sûr que j'en suis victime, c'est certain.
C'est des...
Ou coupable, plutôt.
C'est les... Là, on a commencé à parler des dépendances, parce qu'il y en a plusieurs formes. Il y a des gens qui aiment leur auto, il y a des gens qui vont être obligés de posséder un véhicule parce qu'ils se déplacent à des heures différentes, ils habitent dans des lieux où il n'y a pas d'accessibilité.
Ici,
ouais. Fait, là, ça devient des choix qui sont compliqués. Puis on essaie de trouver des alternatives là, pour ne pas être pris avec autant d'auto que de personnes. Ben, les réseaux de transport en commun, selon les milieux. Là, la réponse, elle ne peut pas être générale. Là, selon les milieux, on ne mettra pas un tramway devant la rue ici. Faut regarder quelles sont les solutions possibles selon le contexte. On a des gros réseaux lourds comme le métro. Si on n'avait pas le métro à Montréal, ça serait l'apocalypse. Là. Donc, des réseaux structurants quand la demande est importante, quand il y a beaucoup de population dans les voisinages, quand il y a beaucoup de lieux d'activité, là, on veut vraiment des réseaux qui passent souvent, structurants, qui roulent toute la journée. Après, on va aller vers des réseaux un peu plus flexibles, les autobus, les minibus. Et là, avec les technologies, on peut avoir du service plus à la demande. Donc, je commande un transport quand j'ai des besoins. Éventuellement, les véhicules autonomes vont faciliter l'accès à des services à la demande.
Tu penses que ça va arriver, c'est vraiment un véhicule autonome?
Bien, ça roule à certains endroits. Je pense que ça va arriver. On ne sait juste pas exactement quand.
OK.
Mais oui, oui, je pense que ça va arriver.
Il n'y a pas de chauffeur.
Ça va être très efficace. Il n'y a pas de chauffeur.
Il n'y a pas de chauffeur.
Non. C'est des petites navettes. Mais il y en a à quelques endroits. Là. Je l'ai pris en 2015 à Bordeaux, la petite navette. Là. Ça faisait un trajet relativement restreint, là, mais c'est une petite navette qui se promène. Là.
Puis comment il assure la sécurité des gens à l'intérieur de ça?
Ben, à l'intérieur.
Mais s'il n'y a personne qui conduit,
oui.
La responsabilité s'il y a un accident, puis tout ça.
Je ne sais pas où on est rendu la réglementation, mais je me souviens qu'au début, il y avait beaucoup de discussions sur comment l'algo à l'interne va devoir décider qui y frappe. Parce que ça, c'est d'un point de vue éthique, c'est pas simple.
Ouais.
Parce que si le véhicule a à faire un choix, ben là, je frappe le jeune, la personne âgée, l'homme, la femme, l'autre véhicule. Tu sais,
c'est pas simple.
Pas trivial. J'avoue ne pas savoir qu'est-ce qui a été décidé par qui.
Est-ce que, à travers tes études, tu as réalisé qu'il y a peut-être des choses qui auraient pu être évitées, que là, aujourd'hui, il faut beaucoup remodeler?
Oui, mais il ne faut pas faire ça. C'est trop déprimant.
C'est déprimant? On n'y va pas de bord.
Non, on ne fait pas ça.
On
ne fait pas ça parce qu'on passe notre temps, d'ailleurs. Quand on relit les livres de 90, on se dit, mais ça se peut pas. 20 ans après, 30 ans après, on n'a pas encore fait ça.
Fait que là, mettons, OK, on y va aujourd'hui.
Oui, c'est un peu, c'est parce que ça.
Aujourd'hui,
ça,
c'est coupe concret. Les jambes, hein? C'est ça. Puis t'as raison, puis je suis d'accord avec toi. Fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce que tu souhaiterais que les gens considèrent le plus ou entendent le plus par rapport à ça?
C'est dur de mettre le blâme sur quelqu'un parce que.
C'est pas tant le blâme plus que qu'est-ce qu'on devrait prioriser.
Oui, mais j'ai déjà dit, j'essaie de trouver des formulations qui sont... J'ai déjà dit, il faut que les gouvernements aident le citoyen à faire le bon choix.
Je comprends.
Il faut que les bons choix deviennent... Il faut que ça soit souhaitable. Il faut que ça soit agréable. Il faut que ce soit facile. Puis il faut en plus que ce soit attractif de faire les bons choix. T'sais. Donc là, il y a une partie de responsabilité gouvernementale de mettre en place les bonnes solutions, les bonnes politiques pour rendre les choses qu'on veut promouvoir plus attractives et les choses qu'on ne veut pas promouvoir moins attractives. Ça, ce bout-là, il est vraiment difficile. T'sais, on lit tous les plans, la politique de mobilité durable, bon, tout ça. On veut réduire la part de l'auto-solo. Bon, l'auto-solo, c'est un drôle de concept qu'on a invité, là, mais c'est un véhicule privé où il y a juste une personne dedans. On est bien bon pour donner de la place à ça. Fait qu'on peut promouvoir les véhicules partagés, par exemple, qui est quelque chose que je pense qu'on fait pas assez, là. Mais faire partie d'un système de location de véhicules à court terme, là, c'est vraiment efficace.
Fait que là, tu parles, par exemple, des communautaux.
Oui. Je n'ai besoin, je le loue. Ouais. Le véhicule en soi, cet objet-là, est vraiment mieux utilisé que n'importe quel autre véhicule possédé de façon privée.
Je comprends.
Bon, après, il faut vraiment... je dis souvent, c'est drôle, on va donner de l'argent à des gens qui veulent s'acheter un véhicule, mais les gens qui ne veulent pas s'en acheter, qui vont se déplacer sans auto, on ne va rien leur donner. C'est quand même bizarre.
Tu parles, mettons, des banques.
Non, mais je veux dire, un particulier qui veut s'acheter un véhicule là, ouais. privé, électrique, je vais lui donner un financement.
Ouais.
Et celui qui dit non, moi, je vais m'approcher de mon lieu de travail, puis je ne vais pas m'acheter de véhicule, lui, on lui donne zéro.
C'est vrai.
Puis quand tu compares les deux, c'est drôle, je trouve qu'il y en a un entre les deux qui son impact est vraiment plus important que l'autre.
Je comprends.
Ça, c'est, il y a comme une petite incohérence dans les politiques qu'on met en place. C'est sans doute moins populaire, là.
Dans ce que tu disais aussi, puis je trouve, évidemment, là, je m'inclus dans le problème. Là, je
mais
m'exclus
on est tous dans le problème.
mais tu sais, quand tu dis faut que ce soit facile, faut que ce soit attrayant, est-ce que tu. Puis là, je veux pas que tu. Est-ce que je veux pas te porter des intentions, mais mettons que moi je les porte, on est paresseux.
Non, je pense pas non. qu'on est paresseux. Je pense qu'on fait tous de l'optimisation, là.
C'est ça. Okay.
C'est un arbitrage perpétuel. Il n'y a personne qui est parfait, là, ça.
Ouais.
Comme je me suis fait, je pourrais citer quelqu'un, il n'y a personne qui est parfait sauf Laure Varidel. Là. Il y a quelqu'un qui faisait je l'adore, Laure, fait que je peux me faire une blague. Là. Mais tout le monde fait des arbitrages perpétuellement. Je pense que l'important, c'est que les gens aient conscience des impacts des décisions qu'ils prennent pour se questionner à chaque fois. Puis ça, c'est pas clair, il y a bien l'information fausse qui circule. On a beaucoup de biais de collectifs. Là. Tu sais, un véhicule électrique en soi, ça ne peut pas être zéro émission. Je veux dire, on l'a produit. Il arrive avec un fardeau déjà, là.
C'est ça, la production de cette voiture-là utilise
un ordinateur, tout exige un produit de consommation. Donc, il a émis quelque chose en commençant. Fait qu'il n'est pas pur quand il arrive en magasin.
Ouais.
Ça, on l'a basculé.
Ouais.
On va négliger, finalement, ce qu'on appelle souvent dans les analyses de cycle de vie, c'est l'empreinte globale. De la naissance à la mort. C'est ça qu'on devrait considérer. Parce que dans les émissions de gaz à effet de serre, il n'y a pas de frontières. Puis là, non. Au moins, la pandémie nous a fait comprendre ça, qu'il y avait beaucoup d'interconnexions mondiales, puis que ce qui se passait ailleurs allait avoir un impact sur nous. Donc ça, on envoie des drôles de messages, des fois.
Mais, donc, mettons, sans vouloir prendre de raccourci, évidemment... j'essaie des fois de me poser la question, moi, comme, tu sais, on se dit souvent ça, moi, comme citoyen, qu'est-ce que je peux faire? Puis j'essaie du mieux que je peux, puis évidemment qu'il y a place à amélioration, puis je me permets d'être doux avec moi-même et de faire ça presse, mais en même temps, il faut que je me réhabitue à plein de choses. Toi, mettons, comme
facile.
Citoyenne, comment tu fais ces choix-là? T'sais, est-ce que tu mets une croix sur les voyages? Si tu voyages, est-ce que tu choisis autrement? Comment tu... puis je me pose beaucoup cette question-là, en fait, de trouver la balance.
Moi aussi, oui.
T'sais, j'ai écouté le documentaire sur Greta Thunberg il y a quelques mois de ça, puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, j'ai beaucoup de choses à faire, mais en même temps, c'est comme, ah ben là, elle traverse en bateau, l'image est forte. Mais après ça, en pratique, tu lis un peu là-dessus, parce que moi, ça n'a pas nécessairement évité tant que ça d'émissions, parce qu'il y a des gens qui ont dû voler pour aller l'aider. Et puis je sais que ses intentions étaient vraiment pures et bonnes. Peut-être que l'image était plus forte à envoyer qu'autre chose. Fait que ça, c'est comme citoyen, on se sent très impliqué. La jeunesse, on la sent très impliquée. Puis je veux même pas juste dire jeunesse, parce que je pense pas une affaire d'âge, parce qu'il y a des gens impliqués de tous âges. Oui. J'ai juste l'impression, des fois, que le leadership en large, fait que je veux dire, que ce soit au gouvernement, que ce soit dans certaines entreprises, je le sens pas assez courageux dans ses prises de décision. Est-ce que je me trompe?
Je pense que oui, ça presse. Il y a vraiment urgence. Il y a vraiment urgence. C'est drôle. On peut pas dire aux gens, faites rien, ça donne rien.
Non, c'est ça.
C'est ça. On peut pas les condamner à rien faire. Donc là, oui, il y a des gestes qu'il faut tenter. En même temps, pour être capable de faire des transformations importantes, il faut vraiment qu'il y ait des actions des gouvernements. On n'a pas le choix.
C'est ça.
On n'a vraiment pas le choix.
C'est plus grand que nous.
Oui, oui. Mais tu sais, en même temps... J'ai des projets notamment sur l'abordabilité intégrée.
Okay,
transport-habitation.
Puis là, on essaie de
la notion d'abordabilité. Parce qu'on a beaucoup de gens qui vont choisir un lieu d'habitation en faisant abstraction des coûts de transport.
Ouais.
Bon. Là, on s'est dit, OK, on va essayer de fournir des outils pour que les gens soient capables d'anticiper ce que ça va leur coûter en termes de coûts de transport, combiné au coût de logement, mais pas avec leur coût actuel de transport, les coûts projetés. Parce que si tu t'en vas habiter en banlieue et tu as besoin d'acheter un deuxième, troisième auto, bien, ça va te coûter plus cher. T'sais, on essaie de mieux instrumenter les gens parce qu'il y a des décisions qu'on prend aujourd'hui qui vont avoir des impacts court, moyen, long terme. Ça, c'est beaucoup plus difficile d'appréhender ça, les impacts long terme, que, OK, aujourd'hui, je prends le vélo et non la voiture. C'est sûr que dans le quotidien, il y a des gestes qu'on peut adopter. Puis on me l'a posé souvent, cette question-là. Qu'est-ce que quelqu'un peut faire? Parce qu'il n'est pas facile. On fait perpétuellement des arbitrages. Tout le temps. J'en fais plein. Là. J'ai 3 enfants qui font des activités. J'étais tout le temps en train de dire, mais j'ai eu à faire des voyages là, catastrophiques. J'étais désespérée. Il fallait que j'aille signer un papier à Rome pour un congrès international. Puis là, j'ai tout fait pour essayer de ne pas y aller. Parce que j'ai dit, ça se peut pas qu'on m'oblige à aller à Rome signer un papier. Puis là, j'étais désespérée. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je suis allée, j'ai compensé. Mais en même temps, compenser, c'est pas... Il y a toujours un sentiment de culpabilité perpétuelle.
Mais c'est j'ai l'impression aussi que le gros bon sens, des fois, est absent de l'équation. Tu te fais déplacer à Rome pour signer un papier.
J'étais désespérée.
Ouais. Alors qu'on a accès à tellement... J'ai acheté ma maison de manière électronique entièrement.
Mais aujourd'hui, on ne le ferait pas parce qu'on a vécu de façon obligée des rencontres internationales à distance.
C'est ça.
Mais à l'époque, là, j'ai dit, t'accueilles un congrès international à Montréal, il faut que tu viennes signer l'entente. J'ai dit, vous n'êtes pas sérieux. Là, c'est toujours le... C'est ça, c'est c'est l'arbitrage continu. OK, mais... Moi, je trouve ça vraiment... Je l'ai dit, genre, ça, c'est pas épuisant, là, mais ça en devient quotidiennement. À chaque fois qu'on fait quelque chose, on se pose la question. Puis là, plus tu te documentes sur certains enjeux environnementaux, plus ça devient présent. Tu sais, t'achètes quelque chose, tu vois. OK. Puis sur n'importe... Moi, je suis pas une spécialiste de parti de transport, là. Mais dans les gestes de consommation quotidien, c'est tout le temps. T'sais, j'achète quelque chose, est-ce que je suis mieux d'acheter les tomates bio ou il y avait encore un article là-dessus? Ça devient vraiment compliqué de voir, mais il faut que ça devienne plus systémique. On ne peut pas dépendre du bon vouloir de chacun de comprendre l'ensemble des impacts pour qu'il y ait des transitions vraiment importantes. Là. Ça se peut pas. Ouais. Ça se peut pas.
Mais tout ça passe aussi beaucoup par l'éducation, tu sais, serait-ce que.
Définitivement.
Moi, mettons, là, avant que je catch. Puis là, peut-être que je suis niaiseux, peut-être que... Puis les chances sont très élevées que ce soit ça, mais j'aime ça manger des avocats, mettons.
Oui, c'est
là,
drôle.
À un moment donné, c'est comme, tu réalises, ah, ça pousse pas ici.
Non.
Fait que mon avocat vient de loin. Comment il arrive ici pour que moi, je mange une délicieuse guacamole? Le coût planétaire est gigantesque.
Oui.
Et arrive la culpabilité, mais aussi la prise de conscience. Puis tu fais, c'est pas... un grand deuil dans ma vie de faire peut-être que je mange pas de guacamole. Après ça, je dis ça, peut-être qu'il y a des avocats qui poussent ici en serre. Sais rien. C'est là où on fait aussi, des fois, je trouve que... Puis c'est pas juste des critiques, des fois, c'est des questionnements que je trouve intéressants. Puis on dirait qu'il y a beaucoup... des fois, je sens une espèce de « Non, ça marche, arrêtez de poser des questions sur tout. » Puis c'est comme « Ah, on peut-tu juste remettre en question, est-ce qu'on peut apprendre ça à l'école? » Ça s'apprend, ça s'apprend, ça, de faire... Moi, je trouve ça fascinant, ton métier, parce que ça c'est au quotidien dans ma vie. Je me déplace quotidien.
Oui.
Je suis un humoriste qui fait de la tournée peu partout au Québec. Mm. Le show de télé que j'anime, on se déplace dans le monde.
Oui.
Le coût carbone de ça... J'en suis de plus en plus conscient. Fait que là, c'est de voir, OK, ben oui, quand il y a des artistes que j'admire, des genres de Coldplay qui font, hey, nous, on fera plus de tournée planétaire. Fait que là, t'es comme, oh shit, attends, là, il y a quelque chose qui se passe.
Ouais.
Et on réalise pas à quel point, tu sais. Puis c'est la même affaire si je repense à moi, là, à 16 ans, quand j'étais allé chercher mon premier char, la plus belle journée de ma vie, là, c'était la liberté.
Ouais.
Alors qu'aujourd'hui, je fais, ah mon Dieu, ben là, j'ai plein de réflexions par rapport à ça. Puis faire justement, ah ben j'habite un peu loin, je devrais-tu m'acheter une voiture électrique? Mais non, attends, là, j'ai un char qui marche, acheter une deuxième voiture, c'est sûrement la bonne solution. Ouais. Après ça, justement, c'est de revoir les déplacements.
Oui.
Qu'est-ce qui te fascine le plus? Parce que évidemment, il y a des côtés négatifs, puis il y a quelque chose d'urgent.
Oui.
Mais il y a des solutions aussi qui sont réalistes.
Oui.
Puis mettons qu'on arrive là, mais qu'est-ce qui te fascine le plus là-dedans, dans cette étude-là du transport des êtres humains? C'est super concret.
Oui. Oui, bon, c'est ça que c'est pour ça que je pense que j'ai réussi à devenir chercheur. Parce que je ne suis pas quelqu'un de passive. Puis je suis comme un peu énervée, là. Puis j'ai cette incapacité à gérer l'impuissance. Tu sais, quand il se passe quelque chose, faut que je fasse quelque chose. Bon, fait que ça peut un peu paraître bizarre de devenir chercheur dans un contexte comme ça, parce qu'on a souvent, on se fait souvent dire, tu sais, ça serait le fun des fois que les chercheurs y trouvent, là. Moi, c'est une blague qu'on m'a souvent lancée. Je trouve ça bien cute. Mais,
tu sais, on a essayé. Plus que bien du monde.
Oui, mais tu sais, on a essayé. C'est que la position, puis quand je recrute mes étudiants, parce que je fais beaucoup d'entrevues ces temps-ci, puis là, moi, j'essaie de recruter des gens qui sont engagés. Je veux des étudiants engagés. Ils vont faire partie d'une équipe, là. Puis nous, notre job, là, c'est de trouver les meilleurs outils d'aide à la décision. Il faut qu'on puisse agir sur la prise de décision. Puis on a en contrepartie la nécessité d'avoir des recherches rigoureuses de haut niveau, parce qu'on va être évalué par les chercheurs internationaux quand on va soumettre des articles. Ça fait en sorte que ce qu'on fait va être de haute qualité, parce que là, il faut connaître le processus de révision d'articles, c'est vraiment pénible. Et là, après ça, on veut soutenir nos partenaires qui nous amènent des questions très pragmatiques. Puis là, on veut clarifier ces enjeux-là. Puis ça, je trouve que c'est ma job. Pour moi, un scientifique devrait être engagé. Là. Je sais que ça fait classique, mais Einstein était un scientifique engagé. Quand je lis ses livres, là, tu sais, le rôle de la science, là, clarifier les enjeux, ça, j'y crois vraiment beaucoup. Puis je suis dans une école d'ingénierie. Moi, j'ai une déformation d'ingénieur. Un ingénieur, tu sais, ça dit toujours, il y a un problème, trouve une solution. Ça aussi, j'y crois. Mais nous, on a des problèmes compliqués. Il faut trouver les meilleures solutions. Fait que ma job, c'est pas de décider. J'ai jamais dit, c'est pas moi. Si je voulais décider, je serais pas prof, là. Mais on va vous donner les meilleurs outils pour que les impacts soient les plus clairs possibles, le moins d'incertitudes possibles, le plus objectif possible pour que vous soyez bien outillés pour mettre en place ce qu'il faut. Donc là, c'est ça qu'on... Fait quand j'aborde des questions, a priori, qui n'ont pas l'air de l'ingénierie, mais quand on traite la question de dépendance à l'automobile, c'est parce qu'on veut être capable de quantifier l'effet de différents paramètres, notamment le type de voisinage dans lequel les gens vivent. Est-ce qu'il y a des services? Est-ce que si je mets une épicerie à 500 mètres, si je mets des partenaires, des services de transport en commun, des services de partage, c'est quoi l'impact sur la probabilité que quelqu'un ait besoin d'un véhicule pour se déplacer, deux véhicules, trois véhicules, là, selon le type de ménage? Donc, on essaie d'avoir des modèles qui expliquent qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de l'organisation de nos villes pour changer la nécessité de posséder des autos, par exemple.
Est-ce qu'il y a des trucs que vous avez trouvés à ce niveau-là?
Oui, mais il y a plein de facteurs qui sont déjà connus. Là, on essaie juste de raffiner. Il y a quelque chose, je ramène souvent les 5D. Il y a un auteur qui avait proposé les 5D, densité, diversité. Fait que densité, il faut qu'il y ait une densité suffisante de population. Diversité, ça veut dire que faire des quartiers où il y a juste du résidentiel, ça aide pas les gens à pouvoir faire l'ensemble de leurs activités sans voiture, là. Parce qu'il faut pouvoir aller quelque part, finalement. Après ça, il y a la question de design. Je montre souvent dans mes présentations des espèces de quartiers là, où ils ont tout fait pour réduire la circulation de transit. Puis ça fait en sorte que piéton doit faire un détour de 1 km pour aller là-bas. Là. Fait que ça fait des détours incroyables. Fait que c'est pas attractif non plus pour la marche ou le vélo ou le transport en commun. Donc, j'ai dit densité, diversité, design, distance au transport en commun, puis accès aux destinations. Fait que, il faut que tu aies accès à des opportunités de déplacement là, vers le réseau de transport en commun, puis il faut qu'il y ait des destinations à proximité. Puis là, on regarde c'est quoi les services. Je sais pas, une garderie, une école primaire. Fait qu'on sait que c'est très... J'ai dit à la... Il y a un comité sur la stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Là. J'ai dit, les mauvais choix en urbanisme sont responsables de tous les problèmes de transport que nous avons. Tu sais, ça crée des gouffres. Ça crée des quartiers, là, ça devient des gouffres opérationnels pour des opérateurs de transport en commun.
Oui.
C'est impossible de servir ça efficacement. Ça ne sera jamais compétitif à l'auto. Puis en même temps, collectivement, on dit, ça se peut pas qu'on mette pas de transport en commun. Mais c'est oui, du moyen d'y penser avant.
Ouais.
Comment on crée nos quartiers pour...
Est-ce que tu sens une écoute sérieuse quand tu exprimes ça? Ou...
Oui, mais les gens qui sont dans le domaine connaissent déjà les réponses. Ils savent à peu près ce qu'il faut faire. Je pense qu'il n'y a pas les bons outils politiques ou réglementaires. Puis ça, je ne suis pas une spécialiste de gouvernance, mais c'est ce qu'on n'arrête pas de dire. Il y a des gens qui ont trop de pouvoir qui ne devraient pas en avoir. Je ne sais pas, les promoteurs, par exemple. Les questions de... Si quelqu'un peut décider ce qui se passe sur un territoire, il n'a pas la responsabilité de tenir compte des impacts que ça va avoir. Ça part mal, là.
Ouais.
Fait qu'il y a... Il y a des incohérences dans la façon dont on organise nos territoires. Mais ça, c'est vraiment la clé, les territoires. Puis j'ai fait beaucoup d'études bizarres. Je me souviens, mon premier sujet, quand j'ai eu ma première chaire, c'était l'optimisation de l'allocation des enfants aux écoles. Okay? Parce que quand on regarde la mobilité, il y a des nœuds de congestion aux abords des écoles le matin.
Ouais.
Parce qu'il y a toute une... une gang de parents qui vont reconduire leurs enfants à l'école. Donc là, tu te dis, mais pourquoi les parents vont reconduire leurs enfants à l'école? Donc là, on regarde le problème, tu recules. Tu dis, OK, les distances. Les enfants ne marchent plus pour aller à l'école. Mais non, les distances ont explosé. Les distances ne sont plus marchables.
Ouais.
Ça n'a pas juste un effet sur le transport, ça a un effet sur l'autonomie des enfants, leur niveau de santé, l'obésité. Il y a plein d'effets. Là,
ouais.
Là on est tombé niaiseux. Tu sais, pourquoi qu'on envoie les enfants si loin? Là, c'est tous les programmes spéciaux, puis là, etc. Il reste que c'est un vrai problème de transport, parce que là, tous les parents sont en auto, font un déplacement pour aller reconduire quelqu'un, là, retournent ou s'en vont au travail à vide. Donc, le véhicule a un passager. C'est vraiment pas efficace.
Ouais.
Fait que, t'sais, j'ai commencé, on va l'optimiser, là. On va faire un modèle mathématique, on va faire une meilleure allocation des enfants aux écoles. Puis là, les diminutions de kilomètres sont énormes. Là, qui va récupérer une question comme ça pour que dans 10 ans, ça soit mieux? Tu sais, il y a comme un vide.
Mais mettons, quand tu as fait cette étude-là, là,
ouais.
Comment c'est quoi le processus que tu as fait pour arriver à la conclusion?
Oui, ben, j'ai un étudiant qui a fait sa maîtrise là-dessus. On a pris des données. On avait les données des codes postaux associés à chaque école. Fait que là, on a fait la minimisation des distances.
Fait que c'est une affaire de choix d'école pour les
enfants primaires, secondaires. Mais okay. les gains collectifs, parce que c'est souvent le problème du transport, c'est moi, je vais décider, puis je vais maximiser mon utilité, mes bénéfices. Puis à côté, la personne va faire la même chose, puis l'autre va faire la même chose. Puis collectivement, c'est pas du tout optimal. Puis là, il y a plein d'impacts négatifs.
Est-ce que... Puis je vais poser la question, mettons, au jeu, parce que je veux pas critiquer les gens, mettons, dans le vide, là, mais... Mettons, moi, des fois, je réalise que dans le fond, c'est que je finis par être très égoïste dans mes choix parce que moi, je veux la paix quand j'arrive chez moi, puis je veux conduire un char manuel, puis je veux pratiquer tel métier, puis je veux faire mes vacances à telle place, puis mettons que si j'avais des enfants, je veux que les enfants aient la même école secondaire que moi.
Tout à fait.
Puis ça fait en sorte que cet égoïsme-là, qui est aussi là, je vais dire égoïste, mais qui peut être aussi, mettons, juste... l'idée que j'ai du bonheur.
Oui, oui.
Là, on est rendu loin quand même du transport. Là, on est rendu à l'espèce de bonheur individuel. Oui. Dans le fond, c'est peut-être ça qui est à revoir, puis remettre la collectivité peut-être au cœur de nos prises de décision pour puis revoir aussi. Mais c'est beaucoup de deuil, en guillemets. Je ne sais pas si c'est des deuils ou c'est du privilège puis du luxe qu'il faut peut-être abandonner, mais qu'on a eu tout cul dans le bec depuis notre naissance pour certains.
C'est une grosse question parce qu'on n'est pas communiste, on n'est pas dans une dictature, on n'est pas capable d'implanter le modèle optimal. Il y en a, on peut le calculer, mais on n'est pas capable de l'implanter. Je pense que ces travaux-là ont vraiment comme objectif de montrer au combien loin on est de l'optimal, puis essayer de faire la théorie des petits pas. Tu sais, quand on implante une nouvelle école, il faut peut-être réfléchir, peut-être qu'il faudrait changer les règles d'allocation des enfants, puis mettre, tu sais, des fois c'est des tirages, peut-être qu'on pourrait tenir compte du lieu de résidence. Tu sais, tranquillement, là, commencer à faire ça. Je pense aussi que la désirabilité des bons choix est essentielle, sinon ça ne marchera pas. Là. On ne va pas brimer quelqu'un pour le forcer à faire quelque chose qui est mieux pour la collectivité. Je ne pense pas qu'on va y arriver comme ça. Il y a moi, j'aime beaucoup, puis j'ai des collègues qui travaillent sur ça, mais si tu prends un sac de chips, là, le nombre de calories est tellement convaincant. Bon. Ça, on a déjà dit, le jour où on va avoir une information sur les impacts de certains choix, court, moyen terme, peut-être que ça va être plus facile pour les gens de comprendre les impacts, parce que c'est pas simple non plus d'être capable de savoir dans l'ensemble des choix c'est quoi les impacts collectifs que mon geste va avoir. C'est pas trivial. Je me suis permis d'écrire à la presse pour leur dire que, tu sais, en 2021, un cahier de l'auto, c'était ordinaire. Puis je leur ai dit, peut-être, je comprends les besoins financiers. Tu sais, j'arrive à cerner ça. Oui, j'ai dit, je comprends que vous avez besoin d'argent. Tu sais, c'est normal, c'est correct. Mais peut-être qu'il faudrait commencer à ajouter une notice. Tu sais, comme si j'avais un cahier sur les boissons gazeuses, là, peut-être qu'au début, il y aurait une notice disant, tu sais, c'est peut-être pas si bon pour la santé. Puis que blablabla. Fait que je dis, peut-être que ça serait bon de documenter les impacts. Tu sais, les impacts, puis il y en a beaucoup des impacts. Oui. Tu sais, c'est pas juste la consommation de pétrole, ni les émissions de polluants, il y a les gaz à effet de serre, les impacts sur la sécurité. Tu sais, on veut avoir zéro accident, mais le premier facteur de risque, c'est le débit d'automobile, puis la taille des autos, les gros VUS, là, puis bon, que peut-être qu'il faut commencer à mettre les notices.
Mais je trouve que c'est super bienveillant de ta part de leur écrire, mais ouais, dans un souci d'éducation.
Ben oui, dans on s'en sortira juste, pas sinon.
T'as pas juste print screené, mis ça dans ta story Instagram en disant « Sont-tu laid de faire ça? » Tu leur as écrit personnellement de manière bienveillante et dans le souci, avec empathie à leur situation. Puis je trouve que ça, c'est extraordinaire. Tu sais, c'est...
Ouais.
Mais c'est comme rassurant.
Ben, c'est parce que sinon, on... T'sais, c'est sûr qu'on va pas forcer les gens à faire quelque chose, ça c'est pas durable.
Non. Et comment tu penses, quand tu parles de ton idée du nombre de calories, des étiquettes, comment as-tu une idée de ce que ça pourrait être? Parce que c'est un calcul qui est assez complexe.
Oui.
Parce que j'imagine que c'est selon. Est-ce que, mettons, moi j'habite seul ici, ce serait un calcul différent si j'avais des enfants.
Oui.
Ils ont quel âge?
Oui.
Leurs études?
Oui.
Et tout ça, fait que là, j'imagine que vous avez échangé.
Mais c'est l'analyse de cycle de vie. Tu sais, il y a beaucoup, c'est des calculs qui sont compliqués, là, mais pour être capable de comprendre l'impact global de quelque chose, il faut faire une analyse de cycle de vie. Donc, c'est comme partir de la production, puis anticiper jusqu'à la mise au rencard, qu'est-ce que ça va avoir sur impact, comme impact sur la durée de vie. Et là, il y a des impacts sur plusieurs choses. C'est ça qui est compliqué. J'ai eu à faire un projet pour la ville de Laval dans lequel on les a assistés dans l'établissement de leur site de réduction de gaz à effet de serre. Je leur ai dit, je vais vous aider à comprendre le prix à payer pour atteindre une cible. Parce qu'on entend souvent des cibles, là. On dit le chemin entre la cible et ce qu'il faut faire, c'est pas tout le temps clair.
Ouais.
Puis je leur ai produit ce que j'appelle des chaînes de causalité. Tu sais, la relation de cause à effet, je pense que les gens, de façon générale, comprennent. Là. Tu fais ça, il va se passer ça, il va se passer telle autre chose, il va se passer telle autre chose, il va se passer telle autre chose.
Ouais.
Fait qu'on leur a fait ces grosses chaînes-là pour certaines décisions de transport. Puis j'ai l'impression que ça, comprendre là, l'ensemble des impacts de certaines décisions, ça pourrait aider les gens à prendre des meilleures décisions. Mais c'est vraiment pas trivial. Tu sais, juste choisir un lieu de résidence... Moi, je l'ai fait, là, d'un point de vue transport, parce que j'ai dit, OK, tu sais, mes enfants vont être là, moi, je vais être là, mon chum va être là, moi, je suis capable de prendre le bus avec le métro, ou mes enfants vont être à pied, mon chum va être en auto, parce qu'il travaille dans un raccoin à Laval. En tout cas, j'ai dit ça. Laval, c'est pas évident de se rendre là autrement qu'en auto, mais, tu sais, fait que là, tu fais la minimisation des coûts.
Ouais.
Je dis, OK, ça, c'est pas si pire.
Fait que tu as fait le calcul, faire, OK, là, on n'a plus assez de place à là où on est physiquement. Pour habiter toute la gang ensemble.
Oui.
Fait que tu as fait un choix.
Ben oui, j'ai minimisé. Tu sais, c'est jamais optimal. Il n'y a rien qui est optimal. J'ai déjà dit, si j'habitais tout seul, je ne serais jamais où je suis là dans ce désert d'opportunité. Je serais sans doute, tu sais, au centre de gravité de Montréal, là, moi, parce que je suis une urbaine. Tu sais, j'aime ça, aller au théâtre, faire ça. Bon, là, tu fais, bon, OK, arbitrage encore. Sacrifie certaines choses. Là, tu essaies de trouver un aménagement qui va être gérable d'un point de vue avec lequel on va être à l'aise, là, qui va minimiser certaines choses, mais qui ne sera pas optimal. Si je pense que c'est toujours comme ça. Mais c'est jamais évident à quelqu'un qui achète une maison, qui va choisir un lieu de résidence. Là. Pas tout est objectif là-dedans. Là.
Mais puis là, en plus, c'est que là, on ne parle même pas de, mettons, en ce moment, la crise.
Exactement.
Qui fait que, mettons, quelqu'un qui a un petit salaire
tout à fait.
Ou un salaire. Je dis petit, là, mais on comprend,
oui.
Raisonnable ou moyen.
Ça, c'est...
On s'est rendu à un point où c'est comme, si tu veux acheter seul, c'est très compliqué.
C'est compliqué.
C'est très compliqué, qui fait qu'après ça, l'optimisation de l'affaire, faudrait que j'habite dans tel quartier parce que c'est là que je travaille.
Oui.
C'est peut-être impossible pour certaines personnes. Fait que là, on rentre, encore une fois, c'est où on voit à quel point le transport est interrelié à tout.
Oui.
Puis c'est là où je pense qu'on a besoin, sur toute la ligne, d'écoute et d'empathie et de travail commun pour arriver à nos fins parce que ce ne sera pas possible.
Oui. Puis c'est ça. C'est pour ça qu'en fait, moi, ma seule façon de ne pas être impuissant dans ça, c'est d'essayer de soutenir la prise de décision. Je le dis toujours. Là, on m'appelle, puis on m'appelle souvent avec des questions. Catherine, là, on veut savoir telle chose. Là. Où est-ce qu'on positionne telle chose? Ou comment on pourrait faire ça? Là, je veux dire, OK, comment on peut réfléchir à cette question-là pour pas faire quelque chose de trivial? C'est pas ma job. Si c'est trivial, j'ai pas besoin d'aller venir chez nous. Là. Si ça presse pour demain, c'est pas chez nous non plus. Parce qu'il faut qu'on ait le temps d'y penser. Puis la moitié du temps, ça fonctionne pas ce qu'on fait. Ça aussi, il faut se donner la chance que ça fonctionne pas.
Ouais. Essayer.
Ben oui, il faut.
Fait que mettons, quand la ville de Laval t'appelle, c'est-tu le genre de projet que tu fais « Ah, ça c'est concret? »
Ah, ça m'a... J'ai tellement travaillé sur ce projet-là. C'était épouvantable.
Et t'as-tu aimé ça?
J'ai adoré ça. Après.
C'est ça. Comme c'est, un gros training.
Cette question-là, puis je me dis, ah, c'est compliqué ce projet-là. Comment on va s'en sortir? Puis là, tu regardes la littérature. Il n'y a pas, y a rien de bon, là.
Est-ce que, contre, si ils prennent leur responsabilité en t'appelant avant d'effectuer ce projet-là? Non?
Oui.
Ce qui est quand même cool.
C'est vraiment génial. Oui, oui. Mais tu sais, j'accepte de faire des partenariats avec des gens qui comprennent c'est quoi une démarche de recherche, qui comprennent que le résultat que je vais leur fournir, c'est pas celui nécessairement auquel ils s'attendent. Parce que ça fait, on sait pas. On a fait des études, on étudie la ligne rose pour Montréal.
Oui.
Super génial projet là, d'étudier ça. Mais je leur ai dit, je sais pas quelles vont être nos conclusions. Parce qu'on on développe des logiciels ouverts aussi pour aider à démocratiser l'accès au modèle.
Donc, moi, je peux le trouver.
Bien, pas encore. On va le mettre en ligne. On a eu un financement pour développer sur 3 ans un logiciel pour simuler des déplacements sur les réseaux de transport en commun. Wow. On l'enseigne déjà. Puis là, on a décidé qu'on allait mettre ça open source pour que le code soit disponible, que les gens qui veulent y accéder, là, et pas. Que ça puisse. On veut démocratiser l'accès aux connaissances, mais aussi aux outils. Là.
Qui fait que, mettons, quelqu'un qui a toujours eu une voiture et qui n'a jamais pris le transport en commun va pouvoir aller sur cette plateforme-là, voir, moi, j'habite là, je travaille là, combien de temps...
Mais ça existe déjà, mais il pourrait essayer des configurations de réseau. Donc, quelqu'un veut savoir, qu'est-ce qui arrivait si je mettais un tramway sur ma rue? Puis le code, met des arrêts un peu partout, il pourrait voir quel est l'effet sur... Tu sais, c'est souvent des questions qu'on nous pose, là. Quel est... Je me souviens, tu sais, les questions, des fois, c'est des raccourcis. On va me dire, est-ce que la ligne rose va réduire la congestion? J'ai dit, attendez un petit peu, je vais vous expliquer le cheminement. Qu'est-ce qu'il faut modéliser et comprendre pour arriver à répondre à une question comme ça? C'est pas direct, là.
Ouais.
Fait que là, on a étudié la ligne rose pour essayer de voir qui en bénéficierait. Parce que ça, je trouve ça important dans les dossiers. Je trouve qu'on est beaucoup préoccupé par les gaz à effet de serre, avec raison. Mais il y a aussi autre chose. Moi, j'essaie d'inclure la question d'équité dans les projets tout le temps. J'ai eu quelqu'un qui a fait une maîtrise sur la notion d'équité, l'équité d'accès aux transports en commun, l'équité d'accès aux opportunités. Là. On a fait des représentations pour voir qui, dans les populations vulnérables, avait ou non accès à certains services. C'était super intéressant. Donc, j'amène souvent la notion d'équité. Donc, quand on a étudié la ligne rose, on a dit, on va voir qui en bénéficie.
Ouais.
Quels segments de population vont bénéficier de ce service-là? C'est quoi les gains de temps qu'ils vont avoir? Est-ce que ce sont des usagers qui sont déjà dans le réseau ou qui sont en véhicule? Donc, on essaie de documenter les effets de ces nouveaux ajouts. C'est ça que ça prend pour tous les projets. Il faut vraiment être capable de voir, de faire une analyse là, sur, oui, les gains de temps, là, mais qui va avoir un accès privilégié? Parce qu'être à pied, à distance à pied d'une station de métro, ça vaut cher là, sur la facilité d'accéder à plein de choses, là. Ça vaut vraiment cher.
Et là, vous êtes en train de travailler là-dessus?
Non, on l'a fait. On a fini.
Comment? Fait que les conclusions ressemblaient à quoi?
Oh, bien, on a étudié les deux segments de ligne rose, là. La diagonale, puis le tronçon vers l'ouest. C'est pas tout à fait les mêmes constats. Le tronçon vers l'ouest, vers l'est, je veux dire...
Tu peux-tu nous trouver une photo de la ligne rose, s'il te plaît?
C'est comme... c'est une diagonale. Tu sais, un piéton, là, on appelle ça la ligne de désir. Je vais aller là-bas, ma ligne droite, c'est mon meilleur chemin, là.
Ouais.
Bien, une diagonale... pour amener le nord-est vers le centre-ville, quand c'est des mouvements que beaucoup veulent faire, c'est sûr que c'est efficace.
Mais oui.
Je veux dire, il n'y a rien qui va battre ça, là.
Fait que ça, c'était souhaitable.
Ben oui. C'est vraiment bien. Puis on regardait aussi l'impact au niveau systémique, là, parce qu'il y a quand même des tronçons achalandés. Fait qu'on allait voir la capacité de ces nouvelles lignes à réduire la charge sur les tronçons de la ligne orange, par exemple, qui sont occupés. On allait voir aussi... j'ai une théorie de... Ouais, c'est ça. La ligne rose, la diagonale.
C'est une méchante ligne, par exemple.
Eh oui, c'est superbe.
C'est gigantesque.
Oui. Mais tu sais, en même temps, là, j'ai de la misère à voir comment on pense que les gens vont se départir de véhicules si on leur offre pas ce qu'il faut pour faire l'ensemble de leur déplacement.
Oui.
Fait que c'est du rêve, c'est des réseaux piétonniers efficaces, c'est du transport en commun. Je vois pas comment on peut s'en sortir, là. Puis des véhicules partagés. J'ai besoin d'un véhicule, je le loue au besoin.
C'est quoi... Fait que là, la ligne rose, finalement, y étais-tu heureux de votre conclusion?
Là, rendu là, ça...
Ça vous appartient plus.
Non. Puis en fait, j'ai livré le rapport la veille de l'annonce du REM de l'Est. Ce qui était quand même intéressant.
Ah ouais?
C'était un hasard, là. Donc, on a livré, puis j'ai su le lendemain qu'ils annonçaient le REM de l'Est. Mais, tu sais, moi, je parle. Ma job de prof puis de chercheur, c'est que si quelqu'un a une bonne question, je vais essayer de contribuer. Si on a ce qu'il faut. Fait qu'il faut d'abord que j'évalue ce qu'on a la capacité de contribuer correctement. Est-ce que c'est un projet qui se prête à la recherche? Si oui, bien, on embarque. Et les gens sont prêts à recevoir. T'sais, on change pas notre conclusion, là.
Non, c'est ça.
Non.
Fait que toi, mettons, est-ce que t'aimerais ça que ça se concrétise, la ligne rose?
Mais rendu là, c'est pas à moi de décider ce qu'on
mais
fait.
Comme citoyenne, mettons.
Mais comme citoyenne. Comme citoyenne.
Parce qu'après ça,
je pense
il y a des ouais. coûts reliés à évidemment, ouais. la construction.
J'essaie ça. Généralement de pas donner d'opinion, là.
Je comprends.
Parce que c'est très important pour moi que quand on m'invite puis que j'ai pas eu le temps d'étudier un projet en profondeur, je vais dire, je veux pas me prononcer, je vais donner des généralités. Puis si c'est des généralités, j'ai pas d'affaire à être là.
Je comprends.
C'est pas ma job.
Je comprends.
Fait que j'essaie vraiment quand même d'amener une vue qui est plus systémique. Puis ça me prend des chiffres, une déformation d'ingénieur.
Puis là, tout ça, le REM de l'Est, le nouveau du 10-30 là, à Montréal, tout ça, c'est des projets, dans le fond, que les gens pensent depuis des années, puis avant qu'ils nous en parlent.
C'est vraiment long et lent, là, c'est épouvantable.
Est-ce que mais en même temps, c'est le temps que ça prend. Est-ce que évidemment, ça serait souhaitable que ça aille plus vite, mais.
Je crois pas ça que ça prend ce temps-là.
Non?
J'ai déjà aussi. Ma deuxième intervention sur Twitter, j'ai dit il faudrait dépolitiser les décisions de transport. C'est trop politisé. Ça se peut pas qu'on fasse des élections sur des tunnels ou des. Ça se peut pas, là.
Comment on pourrait dépolitiser?
C'est trop important. Il faut rendre ces décisions, faut rendre ça indépendant. L'autre problème avec le branchement avec les élections, c'est qu'on a des vues 4 ans, ça ne marche pas. C'est des projets c'est trop important à long terme pour qu'on laisse ça être discuté en plein milieu de la rue par des politiciens. Je crois pas ça, là.
Est-ce que tu verrais, mettons, un CA qui s'occupe des transports ou...
Je sais pas comment, encore une fois, moi, la gouvernance, je sais pas. C'est juste que j'ai accepté de siéger sur le comité consultatif sur les changements climatiques du gouvernement du Québec. Parce que...
Ça doit tellement être intéressant.
Oui, j'ai accepté parce que nos avis vont être publics. Parce que sinon, tu sais, j'en ai fait des comités, là, je commence à avoir l'expérience de plusieurs comités. Des fois, on discute en comité, quelque chose sort, mais là, le comité, s'il y a un écrit qui sort, ça ne veut pas dire que tout le monde avait exactement que ça reflète parfaitement l'avis complet du comité. Là, nos avis vont être publics. Ça, je trouve ça vraiment chouette.
Qu'est-ce que tu trouves chouette là-dedans?
Qu'on puisse faire des recommandations, puis que même si le gouvernement les accepte ou pas, que ça va pouvoir être publié, que le comité recommande telle chose. Après ça, le gouvernement fera bien ce qu'il veut. Ça, c'est pas...
Est-ce que l'idée aussi, c'est de faire confiance un peu justement aux citoyens et citoyennes qui entendent parler de l'idée puis qui mettent entre gros guillemets ici une espèce de pression populaire?
Oui, bien idéalement, ça viendrait la pression viendrait d'en bas. Là. C'est sûr que quand il commence à avoir un appui suffisant dans la population, c'est plus facile de prendre des décisions. Ça, je l'ai vécu à Québec avec M. Labeaume, parce que j'ai fait partie du comité d'implantation de... Comment il s'appelait? Le comité, je ne me souviens plus, là, sur son projet de transport en commun structurant. J'avais accepté d'aller siéger sur le comité. Je leur ai dit en arrivant qu'il y avait un problème de prétention automobile au Québec, à Québec.
C'est quoi tu veux dire?
La prétention. Les automobilistes conduisent de façon prétentieuse. Mais ça, je leur ai dit. Qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai. Dans le sens
qu'est-ce
où,
que tu veux dire, ouais?
Si tu veux traverser une traverse piétonne, ça prend du courage à Québec.
Ah, OK, je comprends.
Parce que l'automobiliste, il est là. Il va passer. Mais moi, je suis un peu extrême, comme piétonne. Je marche beaucoup. Là. Je me suis promenée avec des klaxons pour bateau. Tu sais, dans les gradins, là.
Oui.
OK, je me suis promenée avec ça parce que je trouvais que j'étais la plus vulnérable. J'avais pas de klaxon. Je trouvais que c'était injuste. Donc, j'ai dit, je vais me prendre un... C'est fort. C'est très fort. Fait que je me suis fait couper, là. Puis l'automobiliste qui m'a coupé, là, il a eu peur. Parce que... Il a entendu ça.
J'adore ça, t'es comme dans Le Masque.
Je sais pas, c'était vraiment drôle.
Quand il se fait
klaxonner,
puis qu'il répond,
mais non, mais...
Je crois qu'il veut communiquer. Pour...
Mais c'est vrai, je veux dire, on est les plus vulnérables. Puis on n'a pas de klaxon, nous autres. Pour ce... Fait que là, ça va faire. Là. J'ai magasiné, il n'y a pas de klaxon, je vais trouver quelque chose. En tout cas, je ne l'ai pas toujours traîné, mais là, je trouvais que c'était vraiment chouette. Mais ce comité-là, j'ai trouvé à Québec, c'est important, il faut que les autres modes prennent leur place dans la rue, parce que j'ai une prétention, mais c'est mon, la façon de mon... De, le projet était vraiment bien, mais ça, c'était quand même déprimant parce qu'en l'an 2000, j'étais à Québec pour étudier le projet de SLR, de système léger sur rail déjà, en l'an 2000.
Puis le projet, c'était quoi?
C'est presque la même chose, mais ça, c'est comme le jour de la marmotte, mmh. les projets de transport. Tu sais, le lien vers l'aéroport, là, ça va se faire, mais c'est le jour de la marmotte. On recommence souvent les projets, le projet de SLR Rive-Sud. Même chose, il y a eu une étude, tu sais, c'est toujours... On dirait que pour les projets de transport en commun, il faut tout justifier.
Pourquoi c'est long de même?
Je sais pas.
On dirait que c'est la bureaucratie, on dirait qu'il y a trop de monde... Puis là, je dis ça sans rien connaître, là. Mais mettons, je trouve que même dans mon milieu, puis j'ai l'impression que à tout le monde à qui je parle, dans les milieux, il y a tout le temps ça, une espèce de... Il y a donc bien des mains qui touchent au papier, si, boire.
Oui, mais tu sais, je pense qu'on met un gros fardeau sur la justification des projets de transport en commun. Tu sais, il faut qu'ils soient regardés de tous côtés. Mais on investit abondamment dans des réseaux de routes sans trop se questionner sur les impacts long terme, là. Fait qu'on a comme séparé l'étude des projets. Puis il faut vraiment aller justifier les projets de transport en commun. Et pourtant, on déplace la même population. Fait que, tu sais, l'espèce de segmentation qu'on fait, les automobilistes et les autres, là, c'est un peu étonnant. Parce que c'est les mêmes populations qu'on dessert, là.
Ouais.
On a cette vue unimodale. Moi, j'ai toujours trouvé ça drôle, là. Tu sais, tu classes les gens de façon mutuellement exclusive. Lui est automobiliste, lui, il fait le reste. Mais c'est pas vrai. C'est pas comme ça dans la vraie vie. T'sais, les gens, il y a des cyclistes qui vont des fois être en auto.
Moi, quand j'habitais à Montréal, je me suis acheté un vélo. Et quand je suis devenu cycliste, ça a fait que je suis devenu un meilleur automobiliste, un meilleur piéton.
Ouais.
Parce que là, j'étais conscient de... Oh, là, je n'avais jamais pensé à quel point il y a des gens qui traversaient sur la piste cyclable avant que je passe proche de... C'est ma lumière. Mm. Je suis devenu beaucoup plus conscient des lumières.
Ouais.
Donc, le fait de me déplacer de manière différente... m'a aidé à être meilleur dans tout ça, un meilleur citoyen, basic.
Mais ça, ce que les citoyens peuvent faire, là, ça me ramène. J'ai déjà dit, des fois, il faut juste prendre une fois par semaine le transport en commun. C'est un premier geste à faire, ou une fois par semaine, tu essaies d'y aller en vélo. C'est pas passer de 100% à 100%. C'est essayer de faire des combinaisons puis d'expérimenter d'autres modes. Là, on va déjà faire des pas en avant. Là, si on commence à comprendre la façon dont on peut utiliser les autres modes. Parce que ça aussi, c'est des pas à franchir. T'sais, la première fois qu'on utilise un véhicule de communauté, là, moi, j'ai appelé 4 fois. Là. Je me souvenais plus. Puis là, j'y connais bien. C'était mon premier partenaire de recherche communauté.
Ah oui?
Là, oui. Ça fait longtemps qu'ils sont au Québec, mais ça a été le premier que j'ai rencontré qui m'a dit oui, vous pouvez avoir accès à nos données. Je fais là, merci. Je venais d'être prof. Là, c'était génial.
C'est bien cool.
Ouais. Fait que là, j'ai commencé à étudier. J'ai fait des travaux très tôt sur communauté. Je connais le système. Puis là, j'ai
qu'est-ce que tu as remarqué dans les données que tu as reçues?
Mais ça fait des années. Je veux dire, le résultat le plus récent qu'on a sur Communauto, c'est qu'on a réussi à faire... Bon, on a réussi à faire un modèle qui établit le lien de cause à effet. Puis ça, sans aller dans les détails, c'est compliqué. Parce que d'habitude, on dit, il y a l'air d'avoir un lien, mais il y a des corrélations. Mais tu n'es pas sûr que c'est ça qui a créé ça. Pour établir le lien de cause à effet, ça prend des modèles particuliers. On a réussi à en faire un qui a démontré que sur 5 ans, l'augmentation de vélo-partage, d'auto-partage puis de services de transport en commun a augmenté le taux de multimodalité. Donc, le pourcentage des gens qui vont utiliser plusieurs modes pour se déplacer dans leur quotidien. Puis le mode qui a eu le plus d'effet, c'est l'auto-partage basé station.
Ah ouais.
Fait que, c'est génial là, d'arriver à avoir quelque chose qui est rigoureux qui dit, bon, c'est preuve. C'est établir la preuve. Là, nous aussi, il faut faire ça en science.
Ouais.
La preuve. Puis ce mode-là, et je trouve, a toujours été négligé. C'est magique là, ce que ça peut faire parce que ça remplace littéralement la possession d'un véhicule privé. Puis ça ne vit pas seul. Il faut que tu puisses faire tes autres modes. Tu ne prendras pas l'autopartage à chaque fois que tu veux te déplacer. Mais ça devient un peu ta police d'assurance si tu as besoin d'un véhicule. Fait que les autres déplacements peuvent se faire à pied, à vélo, en transport commun. Ça, c'est une belle cohabitation. Puis quand tu as besoin d'un véhicule, tu le réserves, tu l'utilises. Ça, c'est vraiment bien.
Ben oui.
Oui.
C'est clair.
Ça, la progression est quand même incroyable. Les nombres de membres, ça augmente. Ça a continué d'augmenter pendant la pandémie.
Puis mettons, qu'est-ce qui est arrivé avec Car2Go? Parce que c'était là, puis là, c'est plus là.
Oui, Car2Go, c'était pas le même type de service, par exemple. Car2Go, c'est ce qu'on appelle des véhicules en libre-service. Donc, la différence entre les deux systèmes, comme une auto, c'est du basé-station. C'est pour ça que j'utilise volontairement l'autopartage basé-station. C'est que c'est vraiment de la location court terme. D'avance, on peut réserver un véhicule. Dans une semaine, j'en ai besoin. Je vais le réserver pour une certaine plage. Car2Go ou les autres, parce que Communauto a aussi un service là, qui est du libre-service. Ben ça, ah, j'aurais besoin d'un véhicule là. Ou peut-être qu'il y en a un, je pourrais le prendre. Ouais. Je regarde, il y en a un dans le voisinage, je peux le barrer. Comme jusqu'à 30 minutes d'avance, je pense. Puis là, je fais juste un déplacement.
OK, parce que Communauto, il faut que tu ailles comme si tu allais
loin. C'est des chaînes.
OK.
Ça, c'est un effet bien plus structurant parce que des services comme Car2Go, si j'ai besoin d'amener mes enfants, je sais pas, j'ai le médecin, puis là, il n'y a pas d'auto, qu'est-ce que je fais?
Ouais.
Je prends le taxi, il faut vraiment que j'aille une autre alternative.
Ouais.
Si je peux réserver d'avance, je sais que je vais l'avoir la semaine prochaine à 2 heures, je vais pouvoir.
Ouais. Ah, c'est tellement bien. Fascinant. C'est fascinant, fascinant, fascinant. Puis, le comment qui s'appelle le lien entre le 10-30 puis Montréal qui sont en train de bâtir?
Le REM. C'est le REM.
Le REM, c'est celui-là. Ça, est-ce que c'est des. C'est-tu des beaux projets? On est-tu. C'est électrique? C'est-tu électrique?
Oui, mais le. Oui, il y a les fils sont installés, là, si j'ai bien compris,
ouais,
sur la rive sud. C'est rare que je suis sur la rive sud. Je me déplace vraiment pas beaucoup ces temps-ci, là, franchement. Mais le projet, il se fait, là. Ça va être une alternative. Moi, j'ai accepté de participer à un panel avec CDPQ Infra. J'ai dit, tu sais, ce que ça prend maintenant, il faut que les modes soient disponibles sur une grande amplitude, toute la journée et à haute fréquence. Donc ça va être le cas. C'est positif sur cet aspect-là. T'sais, ça veut dire que c'est un mode que les gens peuvent utiliser, pas juste pour aller travailler, pas juste pour aller aux études, mais pour sortir, faire du magasinage. Ça, c'est important qu'on offre ce type d'opportunité-là. Donc, sous cet aspect-là, c'est très positif.
Ouais.
Après ça, est-ce que c'est la meilleure technologie, le meilleur tracé? Mais là, pour moi, c'est déjà fait, là. Fait que je trouve que c'est un peu... On va pas arrêter de le construire, on va pas changer. Je trouve qu'on perd beaucoup d'énergie des fois à dire « on aurait dû faire ci, on aurait dû faire ça ». On pourrait peut-être se préoccuper de ce qu'il faut faire maintenant pour les prochaines années. Là.
Mais est-ce que c'est dur un peu aussi parce que la technologie change tellement rapidement que des fois, c'est dur de prévoir dans 10 ans? C'est-tu difficile ou pas tant que ça?
C'est quand même des modes qui vont être maintenus longtemps. Alors, on pense au métro de Montréal.
Ouais.
Je pense qu'il n'y a pas trop de crainte à avoir là-dessus.
Ouais.
Je pense que cette question-là, on pourrait la poser pour notre réseau de bornes de recharge aussi.
Ah ouais, hein?
Oui. Ça me préoccupe. Là, nous. Toute une nouvelle infrastructure qu'on installe, qu'on va devoir entretenir.
Pour moi, je suis préoccupée. Pour les voitures électriques.
Oui.
Pourquoi? Qu'est-ce qui te préoccupe?
Parce que c'est un autre réseau qui va occuper de l'espace sur nos bords de rue. Parce qu'un autre des sujets qui m'intéresse vraiment beaucoup, là, ça va l'air bizarre, mais c'est le partage de la rue.
Oui.
J'ai dit, la compétition pour l'espace et le temps, c'est la clé des 10 prochaines années. Tu sais, t'as un bord de rue, là, tu le donnes à qui? Puis je me souviens à l'époque, il y a peut-être en 2009, Bixi est arrivé. Puis les gens de la ville m'appelaient, Catherine, est-ce que le Bixi est en compétition avec le taxi? J'ai dit, très bonne question. T'sais, parce que là, tu te dis, OK, j'ai un coin de rue, je le donne à qui? Puis c'est une vraie question.
Eh oui.
Je mets un arrêt d'autobus, un poste d'attente de taxi, une station Bixi, une place réservée pour les personnes avec limitation. Il faut décider. Puis ça détermine comment les gens se déplacent. Fait que là, si j'ai des bornes de recharge à remettre, bien, il faut que j'alloue de l'espace pour des bornes de recharge. Puis là, je donne un espace privilégié à des gens qui possèdent des véhicules électriques. Je trouve que c'est une question, c'est vraiment fondamental quand tu as des espaces publics, tu décides qu'est-ce que tu fais avec.
Ouais.
Donc là, il y a beaucoup de discussions sur la disponibilité de bornes de recharge. Bon, mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, on favorise une clientèle plutôt qu'une autre quand on met des bornes de recharge. Puis là, il y a les stations Bixi électriques. Tu sais, il y a plein, il y a beaucoup. C'est vraiment de la compétition pour l'espace. Là.
Eh oui, les bars veulent les terrasses.
Oui, c'est ça.
Ben oui, il y a du
tout
stock.
Tout le temps. Fait que le bord de rue, là, c'est vraiment la clé. C'est drôle, mais gérer le bord de rue, là, il y a du pouvoir là-dedans. Mais fait que moi, je trouve la question des bornes de recharge, là, on en a. Il faut décider combien qu'on en veut, mais il faut les entretenir après. Puis qu'est-ce qui arrive si on a une nouvelle technologie qui recharge les véhicules quand on roule sur autoroute, ce qui existe déjà ailleurs, là?
Ouais, que l'auto se charge
elle-même. Mais oui, en roulant, la recharge est faite. En tout cas, je trouve que c'est... Dès qu'on a à se doter d'un nouveau réseau, il y a toujours souvent, quand j'enseigne, je vais dire qu'il y a deux choses qu'il faut réaliser. C'est l'épreuve à l'échelle du temps puis la mise à l'échelle. Tu sais, il y a une petite vidéo là, que je montrais dans mes cours quand on parlait de technologie puis de prospective. Je montrais le petit drone là, qui lance ton paquet sur ton terrain. Tu sais, t'as un petit drone de livraison, puis ton paquet tombe. C'est comme magique. Puis là, je dis aux étudiants, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est souhaitable comme technologie d'avoir de la livraison à domicile avec un petit drone? Puis là, waouh, c'est des gens techno, là.
Ouais.
Puis là, je dis, OK, maintenant, on multiplie ça par 1 million. Parce que, tu sais, c'est cute quand il y en a un.
C'est ça.
Mais la mise à l'échelle, est-ce que c'est un vrai système qu'on veut avoir, là, des drones puis des taxis volants? Puis là, mon garçon, j'ai 3 enfants, j'ai dit, imagine, on a de la misère à gérer un réseau routier au sol.
2D.
Là, vous allez me dire qu'il faut gérer les taxis volants en plus, là. On n'est même pas capable de gérer une intersection.
Aïe. Fait
que c'est, je trouve que des fois, on s'emballe pour des solutions technologiques. Puis là, tu dis, OK, respire, mise à l'échelle. OK, c'est cute, on est 10 000, 15 000 à l'avoir, bien fun, mais 3 millions demain, qu'est-ce qui se passe? Comment on gère ça? Puis même chose pour dans 5 ans, dans 10 ans. Est-ce qu'on va encore trouver que c'est une bonne idée?
Ah, mon Dieu, on dirait que c'est pas cute, genre, tu sais, des bancs de drones dans le ciel, genre.
Oui, mais il faut l'avoir, cette vue-là, parce qu'on a tendance, puis j'en ai des discussions avec des gens sur les gaz à effet de serre, parce que moi, ça me préoccupe. Je peux pas dire que j'angoisse, là, mais ça me préoccupe vraiment, parce qu'on commence à les voir de plus près, les impacts, là, tu sais, des changements climatiques. Mais là, je trouve que les gens, ça attendra, là, ils vont trouver quelque chose. Qui ça va trouver quelque chose?
Oui.
Tu sais, je trouve qu'on a tendance à penser que la science va nous sauver soudainement, là. Qu'il y a quelqu'un qui va avoir une bonne idée, puis ça va. Ils vont tout absorber ça. Puis les gens comprennent pas qu'on est déjà dans le trouble, parce que ce qu'on a émis va rester là. Tu sais, c'est pas comme si on arrête du jour au lendemain, puis ça disparaît. C'est tout ce qu'on a émis comme gaz à effet de serre, c'est là. Fait qu'on est vraiment pogné avec. Là. Chaque jour de plus, on a un fardeau supplémentaire. Fait que là, tu dis, il faudrait peut-être que les gens réalisent aussi que c'est pas. Ça disparaît pas. C'est ton tas de vidange, là, il fait juste continuer. Mais c'est ça. Fait que j'en ai dans mon voisinage là, qui disent, ah, mais tu sais, je suis sûr que quelqu'un va trouver quelque chose. Mais je me dis, qui? C'est qui va trouver quelque chose? Puis là, je le dis aussi à mes enfants. J'ai dit, trouve, vous êtes pas assez fâchés.
Je comprends.
Tu sais.
Je comprends.
C'est vous qui allez nous poigner avec ça.
Je comprends. Je comprends tellement, puis c'est là où j'essaie, puis je sens ça chez toi, donc j'admire ça chez toi, parce que justement, cette colère-là, je trouve que tu l'utilises, en tout cas, tu sembles l'utiliser comme moteur, dire « Hey, moi, ça me préoccupe, donc si on m'appelle, je vais dire oui, je vais donner de mon temps pour qu'on se pose ces questions-là ensemble, qu'on trouve les meilleurs. » Puis c'est là où j'admire cette patience-là, cette générosité-là. Tu sais,
patience, ça va pas avec moi.
Non?
Mais c'est drôle. C'est
mais tu comprends ce que je veux dire?
Oui. Non, mais je comprends.
De faire, mais oui, je vais venir, puis je vais le faire, puis je vais, tu sais.
On fait quoi sinon? Mais je pense que c'est des personnalités. Il y a des gens qui vont être capables de juste, bon, tu sais, quelqu'un va s'en occuper. Mais je vois pas, là. Je pourrais pas rester assise. C'est presque fatigant, là.
Je comprends, c'est sûr. Mais est-ce que... c'est pour ça, tantôt, je te demandais, est-ce que tu sens qu'il y a de l'écoute? Est-ce que tu sais, quand tu dis à tes enfants, crime, faut être plus... mais c'est ce qui est tough, c'est que j'ai l'impression, des fois, qu'il y a beaucoup de bonnes personnes. Puis je veux pas mettre un cas bonne personne, mauvaise personne. J'ai l'impression que tout le monde veut juste être bien.
Oui.
Puis avoir du bon temps avec sa famille, puis vivre heureux, j'ai l'impression. Fait que j'essaie de faire attention à mon choix de mots pour pas sonner
tout à fait
judgmental, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens, justement, qui vont être activistes, qui vont incarner ce qu'ils peuvent à l'intérieur de leurs limites.
Oui.
Mais il n'en demeure pas moins que je me pose beaucoup de questions par rapport au leadership. Et je trouve qu'il y a beaucoup de place où le leadership est défaillant et il y a beaucoup de déresponsabilisation. Et c'est là où je sens l'impuissance qui est tellement choquante.
Ouais.
Parce que, puis là, je dis ça, puis je me sens pas très activiste. Tu sais, mais à force de rencontrer des personnes comme toi, on dirait que je suis comme... Il y a beaucoup de gens, oui, mais il y a rien qui bouge. Tu sais, c'est enrageant, là, tu sais, on dirait qu'il nous niaise.
Oui. Moi, on m'a déjà demandé la question, là, parce que j'ai fait une émission qui s'appelait « Ça change quoi? » Puis il me disait « Pourquoi, après tout ce temps, tu fais encore ça? » Puis je pense que je pourrais pas ne pas le faire. Je pense que je serais pas capable de je sais pas.
Ouais.
Mais je trouve aussi que je pense que les gens n'ont pas conscience qu'ils peuvent contribuer. Je pense que les gens ne savent pas comment.
Oui.
Ça, c'est une première chose. Tu sais, les gens ils disent « Ouais, mais de toute façon, tu sais, moi, j'ai pas de compétences ou j'ai pas... » Mais c'est pas vrai. Là. Je pense que tout le monde a une petite contribution à faire. Je pense aussi que je sais pas qui ose. Tu sais, on veut des politiciens engagés, mais est-ce que ça nous tente d'être politiciens? Pas sûr.
C'est
ça. Je suis pas sûr que c'est une job qui est si plaisante que ça. Moi, je les admire, je leur dis à chaque fois, là, j'en côtoie, là, je les trouve extraordinaires. Je sais pas comment ils font pour passer à travers ça. Puis, on en voit, ça doit être encore pire maintenant avec les réseaux sociaux. Je sais pas comment ils font.
Je sais pas comment ils font non plus. Moi, je reçois un commentaire négatif, puis ça fuck ma semaine. Je peux pas m'imaginer être politicien.
C'est fou. Je leur dis, moi, je serais jamais capable de faire ce job-là. Un, j'ai pas la patience, justement. Ce serait bien trop intolérante. Parce que là, je suis vraiment, quand j'ai des adultes, je suis très patiente avec des enfants. Ben, en tout cas, mes enfants diraient peut-être pas ça. Mais je trouve que, rendu à un certain âge, je me dis, tu sais, prenons nos responsabilités.
C'est ça.
J'ai la notion de responsabilité, là, j'y crois vraiment. Tu sais, on a un devoir de citoyen. Ça, j'y crois fondamentalement, mais je pense pas que j'aurais le courage d'être en politique. Je vois pas, là. Je vois pas comment j'arriverai à survivre à ça. Fait que je les admire, je les trouve géniales. En même temps, on se demande qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça devienne plus attractif. Il y a des postes, pour moi, dans la société, je trouve qu'on n'a pas réussi à les rendre suffisamment attractifs alors qu'ils sont si fondamentaux.
Par exemple?
Tu sais, les enseignants, moi, les gens qui s'occupent des enfants. Les enfants, c'est la clé. C'est la clé. J'ai toujours dit pourquoi ils devraient être exposés plus tôt à plein de choses.
Ouais.
J'ai pris une étudiante de cégep, j'ai dit c'est trop tard déjà. J'ai parlé aux scientifiques en chef, là, plus jeunes. Au secondaire, il faut qu'ils soient exposés aux sciences. Parce que moi, je crois aux sciences, je suis en sciences. Tu sais, je trouve que ça permet d'objectiver des choses. Il y a des sciences de base que les gens devraient avoir. Il y a des connaissances de base, puis j'ai dit, on veut plus de filles en sciences. C'est un défi pour nous, là. On veut des équipes plus équilibrées. J'ai dit, plutôt, début secondaire, il faut qu'ils soient exposés. C'est quoi la démarche scientifique? Même s'ils vont pas en sciences, après, on s'en fout. Mais d'avoir quelque chose de plus structuré dans leur pensée, ça va aider dans n'importe quel domaine. Fait que je trouve qu'on est... Je dis parfois à mes enfants, j'ai l'impression là, qu'il y en a qui considèrent que les enfants, ils ont comme des demi-cerveaux, là.
Ouais.
Ça m'agace beaucoup, beaucoup. Tu sais, moi, mes enfants, je les brasse, là. Je dis, voyons, tu sais.
En plus, j'ai l'impression, j'ai pas d'enfants. Tu sais, j'ai un neveu puis des nièces. Puis j'ai l'impression qu'il faut juste les fider, tu sais.
Ah oui.
Ils parlent anglais juste parce qu'ils ont écouté la télé en anglais. Tu sais, ils sont tellement brillants.
Oui.
Ils sont tellement brillants.
Oui.
Ils sont tellement curieux.
Oui.
Moi, c'est quand je chill avec eux autres, après, c'est moi qui est fatigué. C'est pas eux autres.
C'est drôle.
Mais
oui.
C'est vrai.
Oui.
Et techniquement, on pense que, tu sais, on va se mettre dans l'espèce de hiérarchie, on va se mettre au-dessus. Puis des fois, c'est bien qu'étaient enfin, les enfants, non. Mais c'est comme, mettons, juste ouais, en va. Pratique, il faut juste les fider, puis les faire essayer des trucs. Puis, tu sais, ma sœur a inscrit mon neveu au baseball parce que, ben, la ville proposait du baseball. Il fait, tu veux jouer au baseball? Elle montrait une vidéo, c'est ça. Il savait pas c'était quoi le baseball. Ouais, je vais essayer. Et comme on fait rien cet été, tu sais, c'est ça. Il a eu trip sur le baseball.
Ben oui.
Juste parce qu'on l'a exposé. Mais ça peut être la même chose avec n'importe quoi.
N'importe quoi.
Adam, mon neveu, encore une fois, a mané pendant un bout de temps, encore à ce jour, passionné des monuments. Mais tu sais, il y a 7 ans, là. Puis là, on parle de passion qui a débuté à 4 ans, mettons.
Ouais.
Puis là, mané, tout le monde, comment ça se fait qu'il tripe ces monuments? Ben, je pense que c'est ma mère qui a donné un livre, ses monuments, ou il y avait un Lego. Puis là, il a vu ça, puis c'est... Mais c'est malade, c'est quoi ça? Puis là, ben, un enfant qui tripe ses monuments, puis c'est pas quétaine, ou il est pas plus brillant qu'un autre, c'est juste, on l'expose à des trucs.
C'est ça.
Puis, il embarque. Puis après, il a le droit de plus triper ou de changer, puis de modifier ça. Mais au moins, on nourrit sa curiosité.
Ah, moi, je crois tellement à ça, là. Les exposer. J'ai dit des fois, il faut leur donner la chance d'être bon dans quelque chose aussi. S'ils n'ont pas l'opportunité de tester des choses ou de voir des choses, ils peuvent pas savoir.
Exact.
Et moi, je trouve qu'on les. Même mes étudiants de l'université, j'ai souvent des discussions presque philosophiques avec mes pauvres stagiaires que je prends du bac. Parce que. Non, mais c'est parce qu'ils ne savent pas dans quoi ils s'embarquent. T'sais. Fait que là, des fois, j'ai des discussions philosophiques, puis là, je leur dis, je trouve tellement qu'on sous-exploite vos cerveaux, là. On vous materne trop, encore, à votre âge. Je comprends, à l'université, il y a plein de monde, il faut faire des examens, mais aller laver des planchers, des fois, là, c'est pas... J'ai dit, avant d'aller faire des... Appelez-moi, je vais vous soumettre des questions. Je sais pas c'est quoi la réponse qu'on cherche, mais au moins, vous allez avoir l'opportunité de chercher. Puis j'ai dit, t'sais, on vous demande de faire A, vous faites A, on vous demande de faire B, vous faites B. Y a-t-il moyen que vous sortez-moi C, à un moment donné, là, que je sois étonnée? T'sais, je sais pas, mais ils n'ont pas été habitués à... Tu sais, c'est ça. Des fois, je les appelle les grosses calculatrices. Vous êtes toutes des grosses calculatrices. Sont super bons, là. Dans un super problème compliqué. Ils vont être parfaits.
C'est un manque de créativité ou de...
Je sais pas.
Moi, des fois, mon sentiment, puis je sais pas si j'ai raison, puis des fois aussi, je sais que j'œuvre dans un milieu où c'est plus facile d'être excentrique, de sortir un peu. Puis tu sais, moi, on me considère excentrique et je me considère pas très excentrique dans mon, tu sais, en réalité. Tu sais, on va me considérer juste parce que j'ai les cheveux colorés, whatever. C'est comme, mais lui, il est weird. C'est comme, je suis pas tant weird. Je suis vraiment pas tant weird. Mais je pense que dans j'ai la chance d'œuvrer dans un milieu où c'est un petit peu plus célébré. En fait, vraiment beaucoup. Alors que dans d'autres milieux, et je pense que c'est peut-être la réalité dans le tien, c'est vraiment différent. Ouais. T'sais.
Oui.
Mais il y a quelque chose par rapport à l'expérience. Moi, des fois que j'observe, où je fais... les gens souvent que j'admire le plus, peu importe leur milieu, puis mettons que je prends mon père en exemple, c'est quelqu'un qui se remet constamment en danger.
Oui.
Fait que, mettons, mon père, à 40 ans, a acheté un vignoble au Québec, à côté d'ici. Et on s'entend, là, il avait une carrière depuis 20 ans, formation comme ingénieur. Lui, il travaillait les sols au départ, fait que il était spécialisé dans égout aqueduc. Il a fait des gros... tout ça. Après ça, il a parti une entreprise, dans les années 90, son mentor, qui était l'oncle à ma mère, il avait dit, c'est l'écologie qui est cool, c'est l'environnement, fais des palettes de carton. Et mon père a le brevet pour ça.
Wow.
Pour les palettes de carton puis une boîte emballage de carton pour le transport, tu sais, parce que ben c'est réutilisable. Puis bon, évidemment. Et là, c'est ma sœur et son mari maintenant qui ont racheté cette entreprise-là. Bref, mais c'est comme très tôt dans sa vie, il essaye une nouvelle affaire.
Ouais.
Puis et peut-être qu'il a la chance d'avoir cet instinct-là et je pense qu'il me l'a transmis. Je me trouve chanceux d'avoir ça. Mais après ça, à 40 ans, prendre un risque comme ça, de faire toute la famille, on change, nanana. Wow. Puis je trouve que c'est la même chose dans tous les milieux. Quelqu'un qui a la capacité de se remettre en danger constamment, de se mettre dans des positions constamment inconfortables et trouver le moyen de devenir confortable.
Oui.
Et mon père, je réalise que quand il est confortable, il est plus bien. C'est ça qui est bizarre, c'est qu'il faut qu'il... Et je nous trouve chanceux d'être comme ça. Parce que c'est plus instinctif. Alors que pour d'autres, c'est l'inverse. Mais je pense qu'on a tous, encore une fois, à l'intérieur de nos limites, les moyens de faire ça. Qui font en sorte que des fois, c'est trouver le juste milieu entre l'expérience et pas la jeunesse nécessairement, mais l'espèce de...
côté rebelle.
Oui, c'est ça, la prise de risque. Exact. Faire quelqu'un qui n'a jamais fait ça... va juste essayer quelque chose. Quelqu'un qui a fait ça depuis tant de temps va être plus prudent. Mais je pense que la communication entre les deux, c'est là où c'est génial. Parce que la personne qui a plus d'expérience peut offrir beaucoup de conseils, mais la personne qui est dans la prise de risque va forcer la personne expérimentée à oser un peu plus. Puis il n'y a rien de plus beau que quelqu'un d'expérimenté qui ose encore.
Ouais.
Ne serait-ce qu'en musique ou peu importe. Mais après ça, je pense que dans les milieux scientifiques, c'est souhaitable aussi parce que c'est là où on va prendre des gros steps, j'ai l'impression.
Oui, c'est intéressant. Oui, mais oui. Puis en fait, c'est ça, je pense que les étudiants n'arrivent pas. On utilisait souvent le mot décadrer. Là, sors-toi de ton cadre habituel, puis essaie quelque chose de différent. Puis j'ai dit, moi, il y a une chose que je ne tolère pas dans mes étudiants. Parce que je suis relativement exigeante, puis je suis bien fatigante. T'sais, un étudiant va pas me lâcher, là. Fait que je vais dire, toi, tu vas finir. Puis s'il faut que je m'assoie sur ton perron pour que tu écrives ta thèse, je vais être là, tu sais. Je suis bien... Ils savent ça. Ils savent que je vais pas les... Que s'ils finissent pas, je vais tout faire pour qu'ils finissent. C'est ça, ma job. Mais je vais souvent leur dire, tu sais, la page blanche, là, tu te présentes jamais devant moi avec une page blanche. Arrive-moi avec les idées les plus farfelues que t'as. Pas grave, il y a quelque chose à faire avec ça, mais rien. Ça, je tolère pas ça, là. Zéro. Fait que je veux qu'ils osent, tu sais, qu'ils me proposent des choses bizarres, là, peu importe. Ils me disent, c'est parce que je comprends pas bien la question. Je m'en fous. Amène-moi une autre question. Tu sais, ça me dérange pas. Je suis très ouverte à. Puis les idées, ce que je trouve aussi, c'est que les gens sont très propriétaires de leurs idées.
Ouais.
Ça m'agace, là.
Ouais.
Tu sais, je veux dire, on cherche, on discute d'une thématique de recherche, là, peu importe le problème, là. Mais lance ton idée, puis on va discuter de l'idée. Là. Je m'en fous qu'il l'a lancée. Je vais dire, c'est pourri, ça n'a pas de bon sens, c'est niaiseux, c'est pas grave. C'est pas toi qui es niaiseux, c'est l'idée.
C'est ça.
Elle est sortie, là. Laisse-la tranquille, on va en discuter.
C'est l'idée de l'ego aussi, dur, se détacher de son ego.
Totalement.
C'est qui est difficile aussi, parce que des fois, pour avoir un certain... Je vais utiliser le mot succès ici, là, mais je sais pas si c'est le bon mot. Des fois, il faut en avoir.
Oui.
Mais il faut comme savoir le doser. Moi, c'est quelque chose qui m'effraie beaucoup, justement, parce que je pense que j'ai beaucoup d'ego, parce que j'ai des idées, puis je veux les amener à terme, puis à ouais donc. Oui. Mais en même temps, j'en veux pas du tout, parce que je veux être très détaché de tout
ça.
Puis d'une espèce de fierté mal placée envers moi-même, ou je sais pas quoi. Mais l'idée que tu viens de nommer, de faire « Hey, on partage les idées, puis on y va », la clé est là.
J'ai participé à une activité où les gens écrivaient leurs idées sur des papiers, ils les chiffonnaient, puis ils les lançaient dans le milieu. Puis ils trouvaient ça merveilleux. Puis après ça, les gens épigeaient un papier, puis là, ils lisaient l'affaire. J'ai dit ça, c'est magique. Puis là, c'est drôle, les gens, ils avaient plein d'idées. Tu sais, contrairement à une séance où tu demandes à chacun de... Là, c'est tout. Tu sais, il n'y a personne qui va oser. Moi, je vais toujours oser, ce qui me met souvent dans le trouble, mais c'est pas grave, ça me dérange pas. Je vis bien avec ça.
T'as-tu toujours été comme ça?
Non.
Qu'est-ce qui a fait que t'es devenue comme ça?
Tabarouette, non. J'étais incapable de faire une présentation orale au secondaire. Incapable, je pense, phobie sociale, là. Ma mère devait faire ça, je sais pas. Super stressée, je tenais des verres, là. J'étais comme ça, incapable de rien faire. Je me dis, c'est quoi cette affaire-là? Tu sais, comment? Puis là, je deviens prof, quelle mauvaise idée.
Oui, c'est ça!
C'est quoi cette affaire-là? Quelle mauvaise idée. Mais je sais pas pourquoi, j'étais hyper stressée dans ma vie. Puis là, je suis devenue présidente de mon école secondaire. Puis j'étais super bonne de faire des discours dans les grandes salles, mais incapable de faire une présentation orale dans ma classe. Je sais pas. Il y a quelque chose de bizarre là-dedans. Je pense, en tout cas, je sais pas. Mais je sais pas pourquoi je me suis transformée comme ça. Ben, pas transformée, mais j'ai toujours été relativement extravertie. Tu sais, je parle trop, je pense. J'irriguais trop avant, là, ça, je contrôle plus ça. Mais je sais pas pourquoi. Puis en fait, je suis du côté calme de ma famille. Ça aussi, il faut comprendre ça.
C'est-tu
On était quatre enfants. Oui. Mon père, très calme, posé. Ma mère, surnommée la tornade.
Ah oui, hein?
Puis là, ben quatre enfants. Puis moi, c'est drôle, mon père me disait, c'est le fun, toi, t'es comme le juste milieu. Imagine! Je sais pas s'il dirait encore ça aujourd'hui, là, mais je trouvais que c'était drôle.
Mais le pire, c'est que ça résonne pour moi, parce que moi, j'ai l'impression que plus je vieillis... plus je me libère.
Oui.
On dirait que... Puis je pense que je suis encore... mes parents sont exceptionnels, puis ils ont élevé mes sœurs et moi, je pense, de manière exemplaire. J'ai l'impression... Tu sais, pas que je me tape dans le dos, je tape dans leur dos à eux. Je trouve qu'ils nous ont bien élevés, tu sais, puis qu'on est polis, puis on se présente bien, peu importe. Là, tu sais. Mais j'ai l'impression que je me permets de plus en plus d'essayer des trucs, puis d'être... de me tromper. Tu sais, je parlais de sport hier avec des amis, puis moi, j'ai beaucoup joué, tu sais, au hockey, mettons, plus jeune, au football, tout ça, puis je me donnais pas droit à l'erreur. Mais c'est un jeu d'erreur, donc c'est très difficile d'être un joueur de hockey, t'amuser, quand tu te donnes pas droit à l'erreur.
Ouais.
Fait que j'ai des fois beaucoup souffert, curieusement, là-dedans. Puis j'étais un enfant, j'avais de la difficulté à exprimer comment... Puis je me souviens, mon père me disait, « Voyons donc, c'est un jeu, joue, donne-toi le droit à l'erreur. » Puis je comprenais pas tout le temps ce qu'il voulait dire, tu sais. Puis aujourd'hui, je regarde les pros, je regardais l'Euro en fin de semaine, ou tu sais, la finale de la Coupe cette année, puis voir des adultes être sous les yeux de tout le monde, des gens qui ont assurément de l'ego. Tu te fais scorer un but, il faut immédiatement que tu l'oublies, puis t'avances, parce que sinon, ça fonctionnera pas, tu sais. Et j'admire énormément ça. Et cette idée-là, je pense qu'elle peut se transmettre dans nos vies quotidiennes, citoyennes, de faire, mais essaye, participe. Puis c'est là où, des fois, puis je trouve que ça résonne avec la conversation qu'on a, des fois, je trouve que, souvent, je vais utiliser l'exemple, je trouve qu'on est dans des pièces qui manquent d'oxygène. Quand les gens nous écoutent pas ou quand on a des bonnes idées, puis on a l'impression que ça aiderait, des fois, si on va contre vents et marées, puis c'est comme, man, je suis en train de te dire que je t'aime, puis que je veux que la société aille mieux, puis tu veux pas.
Ouais.
On dirait que mes poumons marchent au corps, là, tu sais. Puis je trouve qu'il y a ça aussi, des fois, dans juste oser essayer des affaires, puis oser prendre des risques. Il y a quelque chose de très, très grandiose qui peut arriver de ça, je suis persuadé, tu sais.
Puis recommencer. Ah, quand on n'a pas appris à recommencer dans la vie, c'est épouvantable. Moi, j'ai juste l'image de ma mère là, qui regardait les dessins d'enfants et disait c'est tout croche, là, voir comment c'est. Puis c'est drôle parce que je l'ai fait avec mes enfants. Puis, là, je l'ai vu plus tard quand tu étais avec des jeunes. Ah ouais, c'est comme c'est de là que ça vient. T'sais, je disais, voyons, c'est même pas beau. T'sais. Puis les enfants, ils n'ont pas été habitués à se faire dire oh, tu préfères mieux. T'sais. Puis, ouais. Puis mes filles font de la danse. Puis, c'est drôle parce que ils venaient de me voir. T'sais. Les parents, oh, c'était beau. Je me disais, c'était tout croche. Je pense que je vais être capable de mieux faire. Mais les filles, ils me croient. Si je vais leur dire, c'était vraiment super. Vraiment super performance, mais des fois, je me dis, tu sais, c'était ordinaire, là. Mais j'aime mieux être. Puis je le fais avec mes étudiants aussi, tu sais, ce texte-là. Puis je me souviens d'un étudiant qui m'a dit, moi, j'ai passé la nuit en position fœtus quand j'ai reçu le mémoire révisé. J'ai dit, pourtant, c'était pas pire. Je trouvais que c'était pas si mal. J'ai pas mis tant de corrections que ça, mais quand même, ma job, là, quand mes étudiants sont là, c'est de leur. Je suis très généreuse en commentaire parce que moi, j'ai. C'est ma job de. C'est presque. Je les protège pour quand ils vont passer devant le jury. J'ai dit, moi, si tu fais pas ma job, là, quand tu vas arriver devant le jury et tu te fais démolir, tu ne trouveras pas que j'ai bien fait ma job. Mmh. Moi, ma job, là, c'est de te préparer le mieux possible pour quand tu vas passer ton examen devant les autres. Là, ça va être top notch. Mmh. Mais il y en a qui n'ont pas été habitués à ça. Là.
Ben, même, aïe, on dirait que ce que tu dis, ça résonne beaucoup chez moi parce que j'ai l'impression aussi que des fois, je me pose beaucoup de questions par rapport à la critique. Oui. Parce que c'est quelque chose que j'ai de la difficulté à gérer, que j'essaie de trouver le bon à travers tout ça, puis j'essaie de me poser des questions à savoir qu'est-ce que moi j'ai à travailler par rapport à cette réception-là, qui est parfois douloureuse.
Oui.
Puis après ça, c'est de faire le tri, tu sais, entre justement un enseignant
et
une enseignante.
Les raisons pour lesquelles la critique est faite aussi, non?
Exact. Mais surtout dans un contexte scolaire,
oui, oui.
Y a rien de personnel.
Non.
J'ai
Mais
l'impression.
Non. Mais non, c'est...
C'est ça.
T'sais, tu viens me voir pour devenir un meilleur. Moi, d'habitude, les étudiants, ils sortent moins pire qu'ils étaient quand ils sont arrivés. Là, c'est quand je les agace, là. T'sais, généralement, ils vont être mieux en sortant. Mais je dis, c'est quand même... C'est la réputation de tout le monde. Il faut que je fasse ma job, là. Parce que tu sors, il faut que ça soit... faut que je te pose les questions difficiles. Sinon, tu vas arriver devant le jury. Puis le jury, sa job, c'est de te mettre à l'épreuve. Si je te prépare bien, tu sais... Mais je trouve quand même qu'ils sont pas tous solides, les jeunes. Ils n'ont pas été habitués à se faire dire « pense que tu peux faire mieux. »
Non,
t'sais, je pense que tu peux recommencer. Recommence une autre fois. Tu peux le faire encore une autre fois, je pense.
Mon père me dit la même chose.
Je trouve. Mais, tu sais, c'est... Puis j'avais donné une entrevue là-dessus, puis il me disait « C'est drôle, on appelle la nouvelle génération la génération des beaux dessins. » Ça m'a vraiment fait rire. Mais j'ai dit, tu sais, des fois, il n'est pas beau le dessin.
Ouais.
Tu sais, ils ont un cerveau, les enfants. Ils vont, tu penses,
mais c'est de revoir notre rapport à ça, justement, à la critique. Puis je pense aussi, en fait, puis des fois, je me pose beaucoup de questions parce qu'on vit dans un monde maintenant, justement, tantôt, tu parlais des réseaux sociaux, c'était un sujet récurrent, mais là, c'est plus... tu sais, mettons que je prends le stand-up, tu sais, l'humour, qui est ma job numéro un, puis qui est mon affaire préférée. Ben quand j'écris des jokes, ben j'ai comme deux ou trois personnes de qui je veux l'opinion.
Mm.
Puis après ça, ben, je teste devant le public. Fait qu'il y a une autre opinion qui est là, qui est, mettons, la quatrième.
Oui.
Après ça, ça se peut que je ne tienne pas à avoir toutes les opinions de tout le monde. Puis c'est là où il faut comme faire le tri de ça, c'est choisir notre critique. Puis après ça... mais là, on vit dans un monde où c'est surexposé, puis tout le monde va se permettre de dire tout par rapport à tout de manière éloquente ou pas, des fois bienveillante, souvent juste froide, égoïste, peu importe, qui fait en sorte que je pense que moi, je sais qu'une partie de ma fragilité par rapport à ça vient de là. Et que mon travail à faire, c'est de me bâtir une carapace puis de me rappeler, OK, attends, c'est quoi mon but? Qu'est-ce que moi, je veux faire? Puis qui fait en sorte que des fois, ben oui, il y a des gens qui vont dire des affaires que je gagne à écouter et d'autres que je gagne à juste laisser de côté. Mais je trouve que dans un contexte scolaire, dans un contexte aussi professionnel de travail, quand il y a des gens autour de soi, on gagne à se faire...
mettre à l'épreuve. C'est vraiment continuellement ça.
Oui. Est-ce que des gens qui continuent... Est-ce que tes étudiants te mettent à l'épreuve aussi?
Je pense qu'ils... Pas tous. Ils devraient le faire plus, mais tu sais, ça reste... je pense pas que... C'est une relation d'autorité, entre guillemets. Je les inclus dans mon groupe de recherche, je les trouve excellents. Ils sont vraiment tous meilleurs que j'étais à leur âge. Ils sont tous meilleurs que moi. Ça n'a pas de bon sens, là. J'ai fait les meilleures lettres d'appui au monde, je pense que je peux le dire. Avec toute humilité, je les trouve excellents, je les trouve brillants. C'est d'ailleurs grâce à eux que j'ai une si belle carrière, parce qu'elles sont... Mais ils... Pas tant que ça. Mais tu sais, nous, on se fait quand même mettre à l'épreuve continuellement comme prof parce qu'on est évalué dans nos articles, on est évalué nos dossiers, on est 5 ans à probation, on est, tu sais, c'est long, là.
Ouais.
Là, je suis rendu titulaire, fait que je suis un petit peu plus à l'épreuve de tout ça, mais dans nos articles, on est quand même continuellement évalué. Puis là, je dépose des demandes de subvention. Je vais encore me faire dire, ton programme n'est pas clair. Tout le temps, on se fait tout le temps dire. T'sais, on se fait toujours questionner sur la façon dont on monte nos recherches. Fait que je pense qu'on commence à être habitué. Ça, je trouve que c'est la beauté, d'ailleurs, de ce domaine-là. Là. Je pense qu'il y a des domaines qui auraient intérêt à se faire mettre à l'épreuve plus fréquemment. T'sais, toujours questionner sur
ouais.
Pourquoi tu traites ce sujet-là, pourquoi tu utilises ce modèle-là, pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi telle hypothèse. C'est continuellement. Mais ça, je pense que c'est bien.
Ouais. Je pense que le questionnement, c'est toujours positif. Oui. Après ça, il ne faut pas que ça devienne, faut pas que ça fige.
Non, mais non. Il y en a que ça fige.
Oui.
Puis ça, l'encadrement d'étudiants, c'est. Il faut adapter. Des fois, je ne le sais pas toujours, là. Puis il faut vraiment que j'adapte en fonction des types d'étudiants, parce que j'en ai ramassé qui étaient. Je me dis, oh, il faut me tenir informé, là. Ouais. Tu sais, je suis pas formée en psychologie. J'ai eu, à un moment donné, je faisais la blague, j'ai un étudiant qui est venu me voir, puis il était où mon bouton help? Help? Ouais. Tu sais, il était comme moi, j'ai jamais voulu être ingénieur. Puis là, je me disais, mais qui peut venir m'aider? Là? Oui. Et je savais pas comment gérer ça. J'ai trouvé ça, oh là là.
C'est beaucoup de gestion, être enseignante ou enseignant. Là, c'est beaucoup de personnes qui t'en demandent beaucoup, avec en plus que tu as de base à offrir. Puis sans parler du côté humain, qui est très, malheureusement, des fois instinctif, tu sais.
Ben oui, on n'est pas formés.
C'est fou.
Les profs à l'université sont formés dans leur domaine.
C'est ça.
Et moi, je suis ingénieur.
C'est ça.
Je suis pas formé en relations humaines.
C'est fou.
Wouhou!
Ouais. Mais tu dois apprendre beaucoup.
Ben, non, je dirais qu'on fait ce qu'on peut.
C'est ça.
Mais
Polytechnique semble être une école assez impressionnante.
Oui. J'ai toujours rêvé, ça c'est très drôle, j'ai toujours rêvé d'aller à Polytechnique. J'ai fait mon application pour faire mon baccalauréat en génie à Polytechnique. Je suis restée chez mes parents parce que c'était plus raisonnable, évidemment. Puis quand j'ai été admise à la maîtrise, ma mère, elle disait « Ton rêve, t'as toujours voulu aller là. » Fait que c'est vraiment bizarre aujourd'hui que je me retrouve prof là. Là.
Wow!
Vraiment. C'est vraiment bizarre.
C'est bien cool.
Mm.
C'est très... c'est vraiment... Ça, moi, j'ai jamais été à l'université. Je sais pas si ça me paraît.
Non.
Mais des fois, je vais courir derrière Polytechnique. Ouais, ouais.
Puis
je suis toujours impressionné par le lieu.
Mm.
Juste le lieu. J'ai même pas mis les pieds à l'intérieur. Mais il y a une vibe. Il y a quelque chose qui se passe, je trouve, sur ce terrain-là.
Oui, mais j'ai appris à encore plus aimer l'ingénierie à travers le temps. Aimer la science, aimer la pensée structurée, tout ça, j'adore. Là. Puis c'est vraiment une déformation profonde dans ma vie de tous les jours. Tu sais, le mode solution, là, on rit de tout ça, les ingénieurs. Là. Et je me souviens quand mes enfants, tu sais, ma fille qui avait rencontré un problème, puis elle était assise par terre, puis elle pleurait. Je dis, regarde, stop, là.
Okay,
c'est quoi le problème? Comment tu peux le gérer?
Ouais.
Puis c'était vraiment bizarre. Je me disais, je suis en train d'enseigner. Je forme mes enfants avec ma déformation d'ingénieur. C'est n'importe quoi. Là, après, tu te dis, ça se peut pas. J'ai vraiment dit ça à ma fille de 5 ans. Elle se partait en train de pleurer, là. C'est quoi le problème? Mais c'est vrai que je trouve que ça te met en mode plus proactif. Tu te sens moins impuissant.
Ouais.
Totalement.
Est-ce qu'il y a des villes ou des instances mettons, qui sont inspirantes à ces niveaux, au niveau du transport?
Pour le transport, mais c'est sûr que quand on a tendance à comparer beaucoup avec l'Europe, c'est bien et pas bien, parce que là, les gens vont dire « oui, mais c'est pas transposable, etc. Le » Le Québec est une combinaison de plusieurs types de milieux. Fait qu'il faut adapter les solutions selon les types de milieux. Il y a des quartiers montréalais qui sont presque à l'image de certains quartiers européens. Là. C'est sûr qu'il y en a qui ont... Il y avait des contraintes spatiales qui ont dû opter plus rapidement pour d'autres options. T'sais, le vélo, il y a des endroits où le vélo, c'est le mode principal de transport. Même dans les pays nordiques où il y a de la neige, les enfants vont se déplacer de façon autonome en vélo. On a mis en place les infrastructures pour le faire. Il y a des bons exemples comme ça. Il y a des exemples aussi où ils ont pris des stratégies un petit peu plus agressives sur les coûts d'accès à l'automobile. Tu sais, Singapour, ça fait des années là, que je donne l'exemple dans mes cours. Les étudiants étudient des villes. Singapour est souvent étudié sur les coûts associés à la possession d'un véhicule. Ça, c'était très structurel. Là. C'est une île. Des fois, il n'y a plus de place.
Ouais.
Fait qu'il faut contrôler la quantité de véhicules.
Oui, c'est ça. Il y a un coût. J'ai été une semaine à Singapour. Puis c'est ça. Tu payes ton permis de conduire et tu as un permis de route.
Oui, puis le coût d'achat.
C'est ça.
Les véhicules, je pense que c'est comme 50 % de la valeur du véhicule que tu payes en taxes. Une affaire comme ça, là. C'est comme exorbitant.
Oui.
Mais bon.
Ça fonctionne-tu?
Ben oui, mais pas le choix. Donc, il faut vraiment mettre en place les aménagements. Mais oui, c'est ça.
Le transport en commun qui suit ça.
Oui, puis quand on crée des nouveaux quartiers, c'est toujours c'est l'œuf et la poule. Hein. Quand on crée un quartier tortueux, juste des maisons unifamiliales, pas de services, mais c'est des quartiers dépendants à l'auto. Il n'y a pas de miracle. Ça, il faut vraiment y penser d'avance. C'est une des clés. Mais souvent, justement, comme c'est long,
ouais. Ben
on la met de côté. Parce que, tu sais, pendant mon 4 ans, je vais pas gérer l'étalement urbain. Je vais être parti quand les bénéfices vont se faire sentir ou peu importe. Fait que c'est très dur d'avoir des politiques qui sont plus contraignantes.
Et comment tu gardes un œil optimiste face à tout ça?
Faut pas me poser cette question.
Non. Je veux pas te mettre à l'envers.
Non, mais... je pense que ça m'empêcherait de fonctionner si je me disais que... Il est presque trop tard. Ouais, moi, je dis ça, là. Bientôt, il va être trop tard. Fait qu'il va falloir décider ce qu'on fait, là.
En même temps, faut
le point
dire.
De bascule, il
faut comme le dire pour que tout le monde y croit. Là.
Oui, mais en même temps, ça rend les gens totalement impuissants. Si tu dis, il est trop tard, les gens vont faire quoi? Bon, on n'a plus rien de rien faire.
Ben, je sais. Moi, des fois, il y a ça, mais il y a des fois, je sais pas. Moi, après ça, mes parents nous ont inculqué la valeur familiale très, très, très puissamment, qui fait en sorte que. C'est pas tant pour moi que je pense à ça, plus que pour vrai, je pense à mon neveu et mes nièces. Pour vrai, là, tu sais, je les aime vraiment, vraiment fort. Puis je fais, ben, pour moi, c'est un geste d'amour que de faire, ben, on va faire attention à la planète pour qu'eux puissent avoir une vie harmonieuse comme nous, on l'a eu, là, tu sais, du mieux qu'on pouvait. Là.
Mais je pense qu'on en parle plus qu'avant. Ça, c'est positif. Ce qui est positif, c'est qu'on en parle vraiment plus qu'avant. On commence à voir les impacts. Fait que là, ça devient dur de penser que c'est pas vrai. Et il y a quand même des comités mis en place. Moi, j'y crois. J'y crois quand les gens... Quand il y a plusieurs personnes qui se questionnent sur une même problématique, là, j'y crois. Ouais. On est intelligent, j'espère. On a les outils, on a la technologie, les solutions existent. T'sais, il manque pas grand-chose, mais il faut vraiment... Ça presse, là.
C'est ça. Faut que le moment entre la réflexion, la bonne idée, puis le go soit plus rapide.
Oui, oui. Puis il faut vraiment encore, il faut mettre en place ce qu'il faut pour que les gens décident correctement. Il faut que ça soit facile de prendre les bonnes décisions, je le dis toujours. Ça peut pas, là. Tu peux pas être pénalisé parce que tu décides de faire un geste pour la planète, là. Ça se peut pas. Ça devrait être le contraire.
Ouais.
Faut qu'on te favorise, faut qu'on mette en place ce qu'il faut pour que quand tu fais une bonne action, que ce soit au niveau des entreprises ou... Il faut vraiment qu'on fasse la promotion des bonnes actions pour qu'on les soutienne financièrement. Parce qu'il y en a des solutions qui existent. Elles ne sont pas adoptées parce qu'elles coûtent vraiment plus cher. Quand tu penses à ça, c'est absurde que ce qui permettrait de réduire les impacts coûte plus cher. Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Là.
Ouais.
Tu sais, le pétrole est partout. Puis le charbon, c'est pas pour rien, ça coûte rien. Puis en énergie, c'est bourré d'énergie. Bon, fait qu'on a un sérieux problème à gérer. Là.
Ouais.
Il va falloir un jour qu'on accepte de taxer ce qui génère des impacts négatifs puis qu'on finance avec ça ce qu'on veut promouvoir.
Comment les gens font pour dormir? Tu comprends ce que je veux dire?
Oui, je sais. Mais
attends, il y a des gens...
C'est encore flou, tu sais. C'est pas... comment je veux dire? J'ouvre le robinet, j'ai de l'eau potable.
Ouais. Ouais.
Je branche, tu sais, j'ai de l'électricité, je peux me déplacer, l'essence coûte rien. Tu sais...
À l'eau potable, parce qu'il y a un village.
Je le sais, j'ai lu ça.
En Montérégie, si je ne me trompe pas, pas loin des lignes, en fait.
Je sais,
pas bien loin d'ici.
Ça n'a pas de bon sens. Oui.
Qu'il n'y a pas d'eau en ce moment.
Ouais.
C'est apocalyptique là, comme situation.
Ouais,
là,
je sais.
Puis j'y pensais ce matin quand j'ai parti ma douche et que j'ai attendu 3 secondes pour que l'eau soit plus chaude. Puis j'étais comme. Puis je suis quand même un fan de douche froide. Fait qu'habituellement, j'y vais tout de suite. Puis là, ce matin, je voulais être douillet, j'imagine. Puis j'ai pensé à ces gens-là faire hey, d'eau, va dans le ventre, la douche. Hein, puis.
Ouais. Mais tu sais, la Californie qui brûle, les niveaux d'eau qui baissent. Il y a beaucoup de gros enjeux, mais c'est pas... Nous, en tout cas, mais je pense qu'au niveau planétaire, là, le constat est quand même plus clair. Mais moi, j'ai commencé à lire le livre de Bill Gates. Je me suis dit, tiens, je vais lire un livre sur les changements climatiques qui n'est pas écrit par un écologiste. Ça va faire changement.
Ouais.
Je me suis dit, peut-être que c'est le genre de livre qui peut aider parce que c'est justement pas écrit par un écologiste. Fait qu'ils m'ont pas dit, t'es un autre écolo. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment inquiétant, mais c'est vraiment intéressant.
Qu'est-ce qu'il dit?
Parce qu'il écrit des chapitres sur toute l'empreinte de ce qu'on construit, comment on se déplace, qu'on consomme. Puis là, il y a une section, j'ai pas fini, sur les solutions. T'sais, là, il parle de captation de carbone, il parle justement la prime verte. Disons, je le traduis comme ça, là. Fait que ce que ça coûte en plus pour avoir des solutions vertes. Puis là, tu comprends pourquoi, de façon systémique, il y a des choses à faire. Ça dépend pas juste de moi, personnellement, je peux réduire ma consommation de bœuf ou je sais pas quoi, là.
Ouais.
T'sais, on est dans une autre,
faut
échelle.
Oui, il faut travailler plus fort.
Oui. Mais ça, tu sais, je trouve ça intéressant. Lire des livres comme ça, là, c'est parce que je me dis, bon, ça démocratise la discussion autour des changements climatiques. J'espère qu'il y a des gens qui n'auraient pas lu de livres sur les changements climatiques qui vont lire parce que c'est Bill Gates, là.
Ouais.
Tu sais, ça me donne un petit peu de... Fait juste savoir aussi, ce qu'il y a là-dedans.
Puis des fois aussi, tu sais, j'ai regardé le nouveau documentaire sur l'histoire de David Attenborough sur Netflix, tu sais, puis justement, à la fin, il offre des solutions, tu sais, parce que... Si t'arrêtes à mi-chemin, là, c'est assez dramatique là, ce qu'il nous raconte, puis avec raison. Mais à la fin, ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est qu'il nous donne des solutions, somme toute, assez simples. Où il est comme, je ne vous dis pas d'arrêter de pêcher, je vous dis d'arrêter de pêcher en si grande quantité.
Oui, oui.
Fait que c'est toute une affaire de modération.
Oui.
Et on dirait que, des fois, puis là, on dirait que je me suis jamais senti aussi anticapitaliste quand je me suis mis à dire ça, mais... il y a vraiment, je trouve vraiment ça décourageant des fois de voir à quel point l'argent l'a emporté, là, mais à un niveau qui est démesuré envers l'être humain. L'humanité n'est plus du tout une valeur si importante, je trouve. C'est vraiment juste une affaire d'argent. Et on dirait que quand on nomme ces affaires-là, c'est comme, t'es lourd, ou tu sais, genre, mais c'est comme, hey, on demande des climats de travail, tu sais, mettons. Où le monde est smart, c'est comme ouais, on n'a pas de temps à perdre. C'est comme c'est pas de ça qu'on parle, là, genre je veux pas avoir peur quand je suis au travail. Ça a-tu du gros bon sens de demander ça? Je trouve qu'à plein de niveaux, justement, quand c'est comme ben pourquoi ça coûte si cher, puis pourquoi ce qui est mauvais coûte si peu cher. T'sais, c'est ça, là. Ben, c'est pour ça des fois je suis comme
c'est sûr.
Ça n'a pas d'allure.
Oui, mais on tient pas compte des externalités, là, donc les impacts négatifs. C'est pour ça que ça coûte si peu cher. Parce que on tenait compte des coûts générés par la combustion du pétrole, ça coûterait pas mal plus cher que ça. Je trouve qu'il y a des mots souvent que j'amène dans les politiques. J'ai dit, c'est drôle, les plans stratégiques, je veux dire, le mot sobriété, il est juste pas là, puis il devrait être là. Parce qu'on parle de transition sobre. Tu sais, la notion de sobriété, là, tu sais, réduire. Puis on a beaucoup une approche techno. Là, je vous donne l'exemple là, de l'électrification des bus scolaires. Là, je lis ça, je me dis, bon, intéressant. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas là-dedans la démotorisation des déplacements scolaires d'abord? Tu sais, tu voudrais que ceux qui peuvent marcher le fassent. Fait que sécurise les voisinages des écoles, fais des cheminements plus efficients, tu sais. Fais du walking buses là, ou du trottibus. Tu sais, accompagne les enfants à pied, je sais pas, là, tu sais, t'es encore, puis ça fait des bus qui marchent. Tu sais, d'abord ça, avant d'électrifier le bus électrique. Tu sais, je trouve toujours qu'on a... Vite, on saute par-dessus la solution techno. Puis après ça, on me dit, mais oui, t'es anti-véhicule électrique. Pas du tout. C'est pas ça que je dis, mais tu sais, c'est compliqué quand t'as une minute. Non, d'abord, réduire la nécessité. Puis ceux qui restent, ils vont tout... De toute façon, ça va tout être électrique. Tu sais, c'est pas un questionnement. On le sait, tous les véhicules vont devenir électriques. Mais on voudrait en avoir moins quand même, des véhicules électriques.
Ben oui.
Tu sais, entre quelqu'un qui s'achète un véhicule électrique ou qui prend l'autobus, je pense que le gain, il est assez clair qu'on est mieux qu'il prenne l'autobus, même si le bus n'est pas électrique. Les gains sont bien plus élevés. Plusieurs gains. Tu sais, il faut arrêter de penser qu'il n'y a pas de hiérarchie dans les solutions qu'on devrait mettre en place. Il y en a une, puis elle devrait être beaucoup plus claire. Puis je ramène sur sobriété. C'est où le mot sobriété dans votre plan? La réduction, là, c'est le numéro un. C'est là-dessus qu'on travaille. Moins d'à peu près tout.
Ouais.
Tu sais, mais on le voit moins parce que je trouve. Puis c'est Michel Labrec qui disait, tu sais, un cycliste, là, c'est pas payant pour l'économie. Un piéton non plus. Puis je trouvais que c'était drôle quand il disait ça.
Ça revient à la question
d'argent. Ça dépense pas.
Il a raison.
T'sais, ça coûte rien. T'achètes une paire de souliers, les trottoirs, t'sais, rien qui coûte rien. Fait que tu fais pas rouler l'économie, mais on fait l'erreur de penser que les gens qui s'achètent pas un véhicule ils ont de l'argent, ils vont le mettre ailleurs, ils vont aller consommer dans les commerces, ils vont, t'sais, si on les oriente correctement, ils vont faire.
Mais c'est qu'ils vont réinvestir dans leur quartier. Ben fait oui. Des fois, c'est moins direct, mais ils vont acheter à la bouquinerie, ils vont acheter à shop de vinyle, ils vont acheter à boulangerie, à pâtisserie. Non, mais tu sais, hier, j'ai invité un ami, puis je l'ai déposé devant chez lui, puis il était comme « Ah, génial, je vais y aller à pied tout de suite, m'acheter des livres parce que j'ai un sac, puis tantôt, je vais aller au marché à vélo, puis là, au moins, je vais être totalement plus light sur mon vélo. » Puis j'étais comme « Il est tellement actif dans son quartier.
»
C'est fourraine.
C'est génial, ça. C'est vraiment l'esprit communautaire. La ville de proximité, c'est ça qui est tendance. Paris est en train de le faire. Paris est en train de sortir les autos du centre puis de travailler à l'établissement de la ville de proximité. Tout à 15 minutes. C'est pas compliqué. Faut que tu aies tes principaux services à 15 minutes.
Ouais. Puis le pire, c'est que, tu sais, moi, maintenant que j'habite dans un quartier rural, mettons, ici, l'autre fois, je marchais dans le village avec ma famille, tu sais. Puis le clocher, l'église, elle sert comme plus à rien ici. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce qu'on... Tu sais, il y a plein de producteurs ici autour. T'imagines si on faisait un marché agricole, tu sais. Ne serait-ce que juste le samedi, mettons. Qui fait que moi, de base, mettons, ma famille, on achète nos œufs au producteur qui est mon voisin dans l'arrière. Je dis voisin en gros guillemets ici. Mais tu sais, il vend aussi du poulet. Le voisin à côté fait des légumes qui sont en vente au marché à la prairie. En face, c'est une espèce de ferme bio. Je ne sais pas trop ce qu'ils font, mais ça me semble exceptionnel. Tu sais, il y a tellement de stocks qui viennent juste d'ici, que je fais... on parle du marché à Atwater, marché Jean Talon, qui sont exceptionnels, mais ils viennent chercher leur stock chez les maraîchers, un peu partout ici. Et nous, on est ici, puis on va aller là-bas chercher notre stock. Ce serait... Puis je pense qu'il y en a plein. C'est des affaires où je fais... Ce serait tellement cool, les petits marchés. Mais après, c'est la crainte de... Mais qui va s'avancer à prendre le risque de
un agrégateur.
C'est ça, tu sais. Mais c'est le genre de projet que je fais, ce serait tellement cool, tu sais.
Oui.
Il y a tellement d'affaires à faire avec ça.
C'est tendance, là. C'est génial, d'ailleurs.
Je t'en reparlerai.
Oui, c'est génial. Non, mais c'est une bonne idée parce que, ils existent à proximité. Il faut que ça bénéficie à ceux du voisinage. C'est une bonne idée. Puis ça réduit les distances de déplacement aussi.
C'est ça. C'est clair. Moi, on dirait qu'en déménageant ici, évidemment, mon mindset a un peu changé par rapport à ça. Puis évidemment, j'ai emménagé pendant la pandémie. Puis mes parents se sont mis à faire du troc avec des voisins. Mes parents leur laissaient des caisses de vin à l'extérieur de la maison. Ils déposaient des poulets puis des œufs. Puis j'étais comme, c'est génial. Puis on trouve ça donc génial aujourd'hui, alors qu'à l'époque, c'était ça. Des fois aussi, on finit par faire un gros tour. C'est comme l'espèce d'affaire où le monde se dit, ah, Caroline, la télécommande de la télé, il faudrait qu'il y ait un fil accroché après la télé pour pas qu'on la perde. T'sais, moi, c'était ça avant, tu sais. Tu comprends? On dirait qu'on oublie d'où on vient, puis on repart, on repogne les mêmes idées des fois, tu sais.
Ouais, non, on est dans la phase très techno, il va falloir... faut se questionner aussi, parce que ça, c'est l'autre chose dont on parle pas, l'empreinte techno, là.
C'est ça, j'avais
demandé.
On aime
mieux pas le savoir, là. Mais je l'ai pas... Je connais pas les chiffres précis, mais les centres de données, on s'est questionné, est-ce que c'est mieux un livre en papier ou un livre électronique? Mais là, quand on voit la quantité d'énergie qui est utilisée pour faire rouler nos serveurs puis nos centres de données, là, parce que toutes ces tendances-là, c'est pas beaucoup quand tu fais l'échelle mondiale. La part des gaz à effet de serre, par exemple, c'est pas beaucoup, mais tu vois que c'est en montée. C'est comme je fais partie du comité de l'aéroport de Montréal.
Il y a
des discussions là-dessus aussi. C'est le comité consultatif aéroport de Montréal. Mais c'est des comités parce que je suis intéressée de savoir, puis je pense que c'est important qu'on se questionne parce que le transport aérien, c'est un enjeu.
Ouais.
C'est une opportunité, puis c'est un enjeu. Puis ça, c'est compliqué. Quand je dis qu'on fait toujours des arbitrages, là. T'sais, est-ce que tu vas refuser à tout le monde de voyager? Non. Est-ce que tu voudrais que ce soit plus... comment je vais dire ça? Mieux... T'sais, les allers-retours là, d'une journée, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus efficace. Il faut que ce soit plus raisonné. Je pense que c'est le mot raisonné que j'aime bien. Mais en même temps, on sait que ça va être là. Mais comment tu fais pour réduire? Comment tu fais pour... Puis là, il y avait des jeunes, oui, mais il y a un mouvement, là, le fly bashing, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle en anglais.
Okay.
T'sais, les gens qui vont refuser de voler, justement, pour des questions environnementales. Est-ce que ça va augmenter? Est-ce que ça va prendre une ampleur suffisante pour que ça... Pas ça mette en péril les aéroports, mais que ça questionne vraiment l'augmentation du trafic aérien? Parce que c'était en...
Ouais.
Puis là, évidemment, la réponse est souvent, mais c'est pas grave, c'est juste 2%. Mais ça peut pas être ce genre de réponse-là qu'on obtient quand chaque petit morceau est un enjeu, quand ouais. on l'ajoute à ce qui est déjà émis. Moi, je trouve que c'est ça. Ça nous touche tout le temps, hein, cette question-là, quand on commence à être un peu sensibilisé, ça devient presque insupportable parce que chaque chose que tu fais, t'es questionné. Fait que c'est ça.
Qu'est-ce que tu penses de la culpabilité dans tout ça? Tu sais, justement, on parlait de culpabilité tantôt. Moi, je sais que c'est quelque chose qui me coule beaucoup dans les veines, là, mettons, de base. Puis là, on parle de ça, mettons, je pense à l'année maudée qui se passe souvent à l'extérieur du pays. Y a quand même, après ça, bon, on reste là 3 mois, tu sais, ce qui est quand même... mais évidemment, là, ça fait maintenant partie beaucoup de... Puis c'est correct. Tu sais, on dirait que là, je pourrais me taper sur la tête de faire, ben là, je savais pas ça. Mais là, c'est comme, ben, je me suis peut-être ouvert les yeux un peu plus tard. Est-ce que ça aide que je me tape sur la tête à propos de ça? Peut-être pas. Est-ce que faut juste qu'à partir de maintenant, je sois très conscient puis que je fasse des, tu sais, que je m'éduque un peu plus à ce niveau-là, tu sais. Puis c'est tough parce qu'en même temps, là, on ouvre une autre facette, mais humainement, ça, habiter à l'extérieur, tu sais, aller en Afrique du Sud puis rencontrer des communautés là-bas, aller à Bali rencontrer des communautés, ça ouvre les yeux, ça te fait...
Oui.
T'sais, j'ai tellement appris humainement à ce niveau-là. Fait que là, c'est de faire comme, OK, ben, encore une fois, je pense que le mot sobriété est peut-être utile. T'sais, faire, ben, OK, ben. Puis en plus, c'est que, mettons qu'on fait ben, 1 année sur 5, va à l'extérieur. Puis les 4 autres années, ben, on fait ça ici. Ouais. Pis...
Je pense que c'est vraiment plus de prendre conscience des impacts, puis après ça, de faire des choix plus réfléchis. Moi aussi, là, je veux dire, c'est des appétages quotidiens. On en fait. J'en ai fait, des voyages. Là. J'ai pris l'habitude de systématiquement compenser sans trop savoir. Puis là, j'ai eu des tu sais, j'ai acheté des arbres, là, clairement. J'en ai acheté à du monde, des arbres. J'ai donné ça comme cadeau de Noël. C'était vraiment cute. Des certificats de compensation. Oh là là. Mais tu parles à des gens pour savoir est-ce que c'est vrai, tu sais, ça fonctionne ou pas. Puis là, j'ai parlé avec une de mes collègues biologistes. Là, elle m'a dit oui, c'est un potentiel non exploité, mais il faut s'assurer que c'est les bonnes espèces d'arbres. T'sais, fait que c'est jamais aussi simple que ça puisse paraître.
C'est ça.
Fait que tu sais, il faut que tu fasses attention avec qui tu fais tes compensations. Puis en même temps, tu fais tes compensations, mais ça peut pas devenir une raison pour en faire plus.
C'est ça.
Fait que c'est toujours le. Tu sais, c'est un balancier. Là. Puis là, tu te dis OK, tu les évalues, on le fait ou on le fait pas, ce voyage-là. Tu essaies de voir. Puis effectivement, c'est jamais unidimensionnel. Il y a toujours ce décret multicritère. Là. Tu sais, là, est-ce que tu. Moi, je trouve qu'avec les enfants, c'est toujours compliqué. Parce que, tu sais, les enfants, ouais, mais nous, ça serait le fun de faire ça. Puis là, je suis toujours la rabat-joie. Là. Oui, mais, tu sais, donc, les filles, vous allez prendre le bus pour aller à la danse. Là. Puis là, toujours. Tu sais.
Quelle bonne citoyenne, c'est... pareil.
Ben non,
c'est...
Ben...
Quand même, tu sais, dans le sens, c'est... mais c'est le fun.
Oui,
que...
non, oui, je sais, mais...
Puis je trouve que comme éducation, là, ils trouvent peut-être ça plate, mais j'ai l'impression, comme m'amener en vieillissant. Moi, là, tu sais, j'achève ma vingtaine, puis on dirait qu'à chaque jour que je vois mes parents, j'ai envie de m'excuser pour une autre affaire que j'ai réalisée ou les remercier pour d'autres raisons. Là.
Oui, oui. Je pense que c'est normal, là.
Fait que, c'est comme mes amis, mettons, qui ont des parents d'origine, mettons, italienne ou whatever. Puis c'est comme, ah, mais tu parles-tu un peu italien? Puis c'est comme, non, quand j'étais kid, ça me faisait chier. Puis je voulais mais aujourd'hui, j'aimerais ça. Oui. J'ai l'impression que tes enfants vont peut-être te remercier.
Je pense qu'on y est tous comme ça.
Ouais.
Puis je me dis, je suis chanceuse, je suis pas comme j'étais avec mes parents. Mes enfants ne sont pas comme moi, j'étais. Je pense que j'étais pas reposante. Mais avec mes manifestations, là, mon père était désespéré de me voir aux nouvelles assis sur des sacs de vidange, là, par exemple.
T'as fait ça?
Ben oui. J'ai fait ça à 5h du matin, convoqué des journalistes à Québec, assis sur des tas de vidanges là, pour la vaisselle recyclable au cégep, la vaisselle jetable. Oui, oui.
Wow!
Ben non, ben je sais pas si c'est wow, mais en tout cas. Mais je sais que mes parents étaient désespérés à l'époque. Mais tu vois, aujourd'hui, je travaille quand même dans le domaine.
Mais alors, c'est ça.
C'est pas si mal, là. J'étais quand même cohérente à certains moments, là. Mais je trouve que c'est ça. Je trouve que c'est dur dans le quotidien de prendre conscience des impacts, des choix. Au moins, il faut les faire consciemment. Je pense que c'est déjà un pas en avant parce que ça, tu vas questionner. Ça ne sera plus des automatistes. Tu vas dire, faut-il vraiment ou comment je pourrais minimiser l'impact de ça s'il faut vraiment le faire ou.
Puis mettons, c'est tantôt, tu parlais du livre de Bill Gates, dans l'idée de justement faire des choix plus responsables et tout ça.
Ouais.
Y a-tu des lectures ou des trucs que tu... Puis je sais que tu dois en avoir... Là, je te pose ça vite de même, là, mais... tu sais, moi, il y a des trucs qui m'ont quand même... Tu sais, justement, là, c'est assez... C'est très facile et accessible, mettons, le David Attenborough sur Netflix, là, tu sais. Mais, tu sais, j'essaie de... Mettons, j'ai lu le livre de Barack Obama, puis là, ça m'a ouvert les yeux sur certains trucs. Puis là, je suis comme, ah, ben là, je vais acheter le livre de Malala pour, tu sais, ouvrir une autre facette de... Essayer de m'éduquer tranquillement, pas vite, de manière, tu sais, à différents niveaux, sur différents questionnements, tu sais. À ces niveaux-là, y a-t-il d'autres trucs?
Je pense qu'on peut lire le livre de Laure Varidel, qui a quand même écrit « La transition, c'est maintenant », je pense. Puis je l'ai côtoyé dans le cadre du pacte pour la transition. Puis j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est quand même des gens, c'est le regroupement artistes scientifiques qui ont essayé de...
Ouais.
De mettre le débat encore plus sur la place publique, parce que nous, on est chercheurs, on n'est pas très bons là, pour être dans le public. Moi, je le fais un peu, mais on n'est pas super efficace. Là,
moi, je trouve très bonne. Parce que...
Non, je sais, mais t'sais, on n'est pas attractif.
Mais ça, c'est une autre affaire que je trouve comme... après ça, que c'est une des raisons pour lesquelles, mettons, je te remercie d'avoir accepté, parce que je fais... Bon, de par la nature de mon travail, je suis devenu une vedette. Puis, c'était pas le plan... Ça fait, maintenant, c'est comme... C'est ça. Fait qu'on m'offre plein de micros puis de lumière.
Super. Oui,
puis,
oui.
Mais je fais, ah mon Dieu, mais attends, il faut que je la partage parce que ça n'a pas de bon sens. C'est pas à moi d'expliquer aux gens qu'est-ce qu'il faut faire parce que j'ai pas ces connaissances-là, tu sais.
Ouais.
Qui fait en sorte que des fois, c'est une des affaires où je trouve qu'on a à revoir aussi. Mon père, il y a plusieurs années de ça, quand je commençais à faire de la télévision, mon père m'avait dit... un spin Noël, tu sais, une bonne conversation légère. Comme les artistes, vous prenez trop de place dans les médias.
C'est drôle!
Puis moi, je commençais.
C'est drôle.
Fait que sur le coup, j'étais, mais de quoi tu parles? C'est notre job, tu sais, quand vous prenez trop de place. Puis sur le coup, tu vois mon ego piqué. Hey,
c'est drôle.
Attends, pourquoi? Puis après ça, je suis reparti avec ça. Puis ça m'est tellement resté en tête parce qu'on dirait que là, je réalise, je suis comme, oh mon Dieu, mais les médias, c'est tellement plus grand que les artistes. C'est les scientifiques, c'est les journalistes, c'est les nouvelles, c'est la politique, c'est le sport, le divertissement. C'est large. C'est tellement large. Et on dirait que j'ai fait, ah mon Dieu, mais il y a raison.
Oui.
Il y a raison. Après ça, dans le sens, je pense qu'on peut être un bon bon appât. On peut être la force qui attire. Mais après ça, je pense que comme... Et moi, j'essaie de travailler ça un peu, encore une fois, comme citoyen, de faire « Ah, mais il faut que j'aiguise mon oreille à tendre l'oreille vers des professionnels parce que ça n'a pas de bon sens qu'on n'écoute pas la science. »
Oui, mais tu sais, il n'y a pas tous les scientifiques qui vont accepter non plus d'aller dans les médias. Là.
C'est
moi,
ça.
Je l'ai fait un peu. J'essaie de le faire un peu des fois quand je trouve ça trop insupportable ce qu'il se dit.
Est-ce que c'est bien reçu dans ta communauté? Ça dérange-tu un peu?
Ben, Polytechnique souhaite que la science soutienne les enjeux sociaux. Ça, c'est clair. La société, ça, c'est clair. Après ça, tu sais, les profs, c'est toutes des petites business individuelles. Là.
C'est ça.
Liberté académique, on fait bien ce qu'on veut. C'est correct, parce que sinon, on ne peut pas faire notre job. Mais là, ça veut dire que c'est de la responsabilité de chaque prof de décider ou non d'accepter. Puis moi, je me fais beaucoup solliciter.
C'est sûr.
Puis j'essaie quand je pense que ça peut être, je peux être pertinente. Là. Parce qu'aussi, on a cette... tu sais, on m'appelle sur le très grande vitesse, je sais pas quoi dire. Fait que j'ai refuse, je dis, je ne l'ai pas étudié. Encore fatigante, mais je veux pas dire des généralités. Puis,
c'est une belle rigueur.
Je me permets pas. Là. Mais il n'y a pas tous les chercheurs qui vont accepter. Puis des fois, c'est pas toujours rapporté correctement. Fait que là, ça aussi, c'est un risque que certains chercheurs vont prendre une fois après ça. Moi, je fais plus ça des médias.
Ouais.
Bon, mais là, c'est parce que... En tout cas, j'ai quand même trouvé... Je trouve quand même que quand il y avait eu le pacte, je trouvais que le deal était intéressant. Parce que là, t'as dit, génial, les gens vont... Tu sais, les artistes sont là pour attirer. Tu sais, ils sont connus, ils ont du pouvoir dans le public. C'est génial. Tu sais, combinaison avec des gens qui vont pouvoir les alimenter. Puis c'était drôle parce qu'ils nous posaient des questions. Je me souviens, le troisième lien était déjà sur la table quand j'étais impliquée dans le pacte. Puis on m'avait demandé de faire un texte. Peux-tu faire un texte? Comme ça, les gens vont pouvoir savoir quoi répondre quand ils vont se faire interpeller sur le troisième lien. J'ai dit, c'est génial. J'ai dit, certainement. Là, je leur ai pondu un texte sur les risques associés à ce les résultats qui vont sortir. Tout ça. C'est peut-être trop compliqué, mais j'ai fait ce que je pouvais pour donner du matériel, pour soutenir quand il y avait des enjeux. Là.
À peu près, troisième lien?
Ah, ta parouette. Quelle absurdité. Mais j'ai dit à mon père que je serais devant la pépine si jamais ça commençait. J'ai dit, inquiète-toi pas, ça ne sera jamais, mais en tout cas, je trouve bien drôle. Parce que j'ai dit, voyons, on est en 2021, là. Fait que là, j'ai dit, ça serait le fun que le problème soit posé correctement, parce que je trouve qu'on a mis une solution. mais on n'a pas posé le problème. C'est un problème de transport. Si c'était un faux problème de transport, puis là, j'avais montré les taux d'utilisation des deux ponts, les taux d'occupation. En tout cas, tu sais, j'avais sorti les chiffres là-dessus. Puis j'ai dit, est-ce que si c'est pour transporter des gens de centre-ville à centre-ville, voici les autres alternatives qu'on pouvait regarder, notamment un téléphérique. Ça se prête très, très bien à ce genre de géographie, là, de passer par-dessus le fleuve puis d'amener au centre-ville. Puis si c'est un enjeu économique, bien, on n'est pas obligé de construire des routes en 2021 pour générer. T'sais. Fait, t'sais, si c'est une question d'habitation, de coût d'habitation, pourquoi tu voudrais vraiment délocaliser les gens à Lévis si leur choix, c'est d'aller à Québec? Ça marche, t'sais, quelque chose de... C'est quoi l'idée, là? De les ouais. écarteler si leur destination, c'est Québec. Pourquoi tu les enverrais vivre à Lévis? C'est parce qu'il n'y a rien à faire à Lévis ou c'est parce qu'ils n'ont pas leur destination là? Il y a quelque chose... Il y a des incohérences dans la démarche. Fait que j'avais un peu expliqué, fait le diagnostic avec les données dont on disposait, proposé d'autres solutions, puis discuter des risques. Parce que je connais les modèles qui sont utilisés. Fait que j'ai dit, quand les résultats vont sortir, voici les risques. On va négliger les effets sur la demande induite. Donc, les nouveaux déplacements qui vont être générés, la nouvelle construction résidentielle. On le sait que ça va arriver. Là. Fait que j'avais un peu expliqué tout ça.
Mais y avait-tu d'autres risques?
Et là, j'ai pas la liste complète, mais il y avait beaucoup au niveau du modèle d'estimation. Là. Comment, qu'est-ce qu'elle allait dire? Là? Parce qu'on a, je sais pas si je peux l'expliquer rapidement comme ça. Fait que, on est beaucoup à demande constante. C'est-à-dire qu'on suppose que les déplacements qu'on observe là vont juste changer de place. C'est jamais ça qui se passe dans le vrai monde. Là.
C'est des nouveaux déplacements qui s'ajoutent.
Parce que tu construis des nouvelles habitations. Puis là, il y a des. Si le taux devient plus attractif puis les temps de déplacement sont plus efficaces, bien là, il y a des gens qui vont commencer à se déplacer en auto, vont peut-être se déplacer à d'autres heures parce que maintenant, c'est plus facile. Fait que, il y a un bel exemple. Là. Si quelqu'un veut voir c'est quoi les effets d'une autoroute, là, il y a le Cathy Highway. Là, j'oublie c'est dans quel état, là, mais c'est comme 18 voies de large, je ne sais pas. Là. Puis ils ont élargi le Cathy Highway. Ils ont élargi. Il me semble que c'est avec un K. Puis ils ont élargi. Puis à chaque fois qu'ils ont élargi, les temps de déplacement ont augmenté.
Non!
Oui, mais c'est un des exemples. Il est un peu extrême, là, fait que c'est bien drôle. Là, je ne vois pas. Toi, j'ai vieilli. En fait, ça, c'est l'effet pandémie.
Oui, c'est ça qui est décrit.
L'effet devant, mais...
ça qui est décrit.
Bon.
Fait qu'ils ont... C'est dans quel état, Alex?
Oui, c'est ça.
Texas.
Fait que, tu sais, ils ont voulu prendre la solution, puis j'ai fait des consultations publiques, puis les gens me disaient, tu sais, c'est facile, s'il y a de la congestion, tu augmentes la capacité, mais non!
C'est pas vrai.
Mais non! T'sais, tu fais juste gaffe, ça n'a pas de bon sens.
Épelle.
Puis on fait le suivi des temps de déplacement, évidemment, quand tu augmentes la capacité.
Il y a plus de monde qui
l'a. À moyen terme, les temps vont avoir augmenté. Tu veux pas ça, là.
C'est tellement intéressant.
Donc, ça, on l'enseigne, là, la demande induite. On est en train de le mesurer pour Montréal, avec les données historiques, pour voir quels ont été les effets de l'augmentation de capacité routière. Wow. Je sais pas les résultats, là.
C'est donc bien intéressant. Mais les déplacements, en plus, c'est pourquoi les autoroutes passent par un certain lieu. Tout ça, c'est fascinant, je trouve.
Oui. Puis il y a beaucoup de politicaillerie, là. Tu sais, tu annonces un projet de transport en commun ou routier, c'est sûr que les terrains vont prendre la valeur.
C'est ça.
Là, qui va bénéficier de cette augmentation de valeur? Est-ce que c'est le gouvernement ou c'est... Je me suis déjà questionné un peu bêtement là, sur pourquoi c'était pas les constructeurs automobiles qui payaient les autoroutes. C'est quand même eux, grâce à ces autoroutes, qui peuvent vendre des autos et plus d'autos.
C'est une super question!
Et pourquoi ils en bénéficient directement?
C'est intéressant. C'est intéressant.
On les finance plutôt.
Puis tes autres alternatives, mettons, du troisième lien à Québec, c'était quoi?
Bien, on peut faire des services de bus express parce que dans le transport, il y a un concept intéressant qui est la capacité. La capacité de transport d'une voie, là. Tu sais, tu prends un certain nombre de mètres, là, selon ce que tu mets dessus, tu vas pouvoir transporter une certaine quantité de personnes. Fait que ça, je l'enseigne au premier cours en deuxième année, là. Tu sais, c'est quoi la capacité d'une voie d'autoroute? Combien tu transportes de personnes dans une voie d'autoroute? Fait que la capacité, c'est le nombre maximum de véhicules que tu peux transporter en une heure. Fait que la règle du pouce, là, c'est 2000 voitures standard. Parce que là, on a des véhicules de plus en plus gros.
Fait que 2000 voitures
Pendant une heure, ça, c'est le maximum que tu vas faire passer pendant une heure.
OK.
Là, tu regardes combien il y a de gens là-dedans. Parce que, tu sais, sur une route, de façon générale, ce qu'on transporte, c'est du vide. Quand tu regardes, là, c'est vraiment du vide. Fait que le taux d'occupation a continué à diminuer tranquillement à travers le temps. Il est à 1,12 en pointe du matin. Fait qu'il y a 1,12 passagers, conducteurs, plus un morceau, parce que c'est des moyennes.
Ouais.
Fait que tu transportes pas tant de monde que ça. Là, tu passes, tu regardes si tu mets le même espace dédié au transport en commun, mais là, ça va dépendre du nombre de fois que le bus va passer puis de la capacité du bus. Mais tu peux facilement, si tu fais des bus express, là, avec des hautes fréquences, tu peux facilement aller 8000, tu sais, facilement, là. Tu peux augmenter de beaucoup la capacité. Puis tu regardes une rame de métro, là, on est... là, j'ai pas le chiffre précis, c'était quoi? C'est beaucoup de monde là, que tu transportes. Puis là, tu regardes une piste cyclable, un trottoir. Puis quand quelqu'un comprend que cette capacité-là est directement liée à la densité, tu sais, combien de gens tu peux mettre collés, bien, c'est sûr que la capacité... si tu dédies tout cet espace-là à du piéton, tu vas en transporter vraiment plus. Puis du vélo aussi, parce que chaque personne va occuper moins d'espace. Fait que le pire, la pire option, c'est la voie dédiée aux véhicules privés. Fait que quand on m'interpellait, parce que j'ai fait des conférences publiques, puis on m'interpellait, Madame Rancy, tu sais, pensez-vous qu'il faut ajouter une voie pour pouvoir offrir du transport en commun? J'ai dit, c'est quoi le problème que vous avez? Tu sais, c'est pour augmenter la capacité de transport? Ben non. Prenez une voie que vous avez, puis implantez des réseaux de transport en commun efficaces. Fait que là, sur Québec, là, on pourrait très bien dire, OK, je mets des lignes express avec... ça prend. Puis on peut avoir des stationnements incitatifs. C'est quand même dispersé, là.
Ouais.
Où on fait des lignes à partir des nœuds où les gens peuvent accéder à pied. Il faut que ça soit des lignes faciles, là. Ouais. Directement vers les points de dessert, puis tu mets des voies réservées. Pour que ça soit efficace. Et ça, puis là, j'ai dit, tu sais, il faut. Pauvres gens de Québec, puis les vies qui sont prises dans la congestion, il faut qu'ils attendent 15 ans avant d'avoir du service. Ou vous voulez l'implanter rapidement.
Ouais.
C'est un peu niaiseux, là. Fait que s'il y a un enjeu réel. Implanter les services rapidement. Là.
C'est quoi. Fascinant.
Mais tu sais, c'est moins sexy de faire des lignes de transport en commun avec des bus que de dire tunnel 2 étages.
T'sais. Ouais, mais. Mais on est. C'est ça, là. Mais là, on vit à cette époque-là, là, des titres, puis des nouvelles qu'on lit pas au complet, puis de ah ouais, donc, l'idée d'un son d'onde génial, mais après ça. Mais encore une fois, on dirait que j'en reviens beaucoup à. Il y a des gens qui sont là pour l'argent, des fois, j'ai l'impression. Tu sais, pourquoi les parkings incitatifs, là, ça. Mais en même temps, c'est
fois, ça dépend où.
C'est ça.
T'sais, quand ils ont prolongé le métro à Laval, l'impact le plus important qu'il y a eu, ça a été quand même de vider les bus du réseau de transport de Laval. Parce que les gens ont pris leur auto pour aller stationner à côté du métro. Tu t'es fait rebond non souhaitable. Fait qu'il faut quand même rendre efficace la chaîne complète, là.
Ouais.
Puis il y a des gens qui avaient des lignes directes, ça va arriver sur la rive sud. C'est une ligne directe qui te prend dans ton quartier qui t'amène au centre-ville, ligne de bus, c'était super, vous réservez, service de luxe, assis, etc. Mais là, tu vas faire une correspondance pour aller prendre le REM. C'est peut-être moins attractif. Fait qu'il aurait pu maintenir, tu sais, il aurait pu décider de maintenir quand même une voie réservée. Puis ça, j'ai souvent dit quand il y avait la commission Nicolet, là, je ne sais plus en quelle année, là, sur le lien Rive-Sud-Montréal, j'ai dit, au lieu de faire de la substitution de service, y a-t-il moyen de bonifier? On a le droit d'avoir une ligne, tu sais, à l'époque, ça allait à plus une voie réservée, là, c'est quoi le problème?
Ouais.
Tu sais, on pourrait offrir plus d'alternatives.
Est-ce que quand tu proposes ces idées-là, est-ce que tu sens une réticence?
Je sens un manque d'argent, ça c'est clair. Parce qu'on va dire, oui, mais on n'aura pas d'argent pour faire ça, on n'aura pas d'argent pour faire ça. Là, je comprends qu'on n'aura pas d'argent pour faire ça. Mais peut-être qu'il faudrait que l'argent soit envoyé pour qu'on puisse tester ces choses-là aussi. Là. T'sais, là, fait que là, ça remonte plus haut, c'est que le financement des réseaux de transport en commun, c'est pas nécessairement ceux qui ont la responsabilité de mettre le service qui ne font pas la bonne chose. C'est peut-être qu'ils n'ont pas les moyens de faire plus que ce qu'ils voudraient faire. Là, on le voit actuellement avec la pandémie. Là. On le sait qu'il faut investir dans les réseaux de transport en commun. On sait qu'il faut vraiment transformer l'offre de mobilité. Puis là, on entend des hausses de tarifs, coupes de financement parce qu'on a des problèmes économiques, évidemment. Puis là, c'est pas clair.
Oh my God! Qu'est-ce qu'on va faire? Catherine, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fait?
On va continuer à réfléchir, en tout cas.
Ouais.
On va attirer encore plus de cerveau sur cette thématique-là. Ça prend. Ben oui, j'ai dit, ça prend des gens intelligents pour réfléchir à ces questions-là. Puis il faut prendre le temps de réfléchir et d'amener des bonnes solutions. Moi, j'ai toujours dit à mon groupe, s'ils prennent des mauvaises décisions, c'est de notre faute. Ça, c'est mon état d'esprit.
Ça veut dire
que nos outils ne sont pas encore assez bons. C'est drôle.
Prends ta responsabilité au sérieux.
Moi, après ça, on se fait bien croire ce qu'on veut, là. Mais je sais pas, faut...
Est-ce que...
on fait ce qu'on peut.
Je sais qu'on a parlé de politique tantôt, mais... mettons, c'est quoi ton... tu fais partie d'un comité qui est...
Plusieurs comités.
Plusieurs comités, ouais. Mais celui
pour qui... le changement climatique.
Ouais.
Ouais.
Par pour accompagner le gouvernement?
Oui. C'est le gouvernement provincial qui a mis ça en place, là. Donc, ça a été choisi par le... Les membres ont été choisis par le ministre de l'Environnement et le scientifique en chef. Je trouve ça tellement beau comme titre.
Oui.
Ils ont choisi les membres. Puis là, on siège tantôt, d'ailleurs.
Aujourd'hui?
Oui. On a des réunions statutaires pour décider les avis qu'on va émettre. On va répondre à des questions du ministre qui veut des avis sur certaines choses. On a aussi le droit de proposer des avis sur d'autres thématiques. Ça, c'est chouette.
On parle quand même de quelqu'un qui s'est assis sur des sacs de vidange,
oui,
quand il était au cégep.
Ouais.
Et aujourd'hui,
ouais,
c'est assez concret, là, ton...
Ben,
c'est ton implication quand tu, ouais, parles d'impuissance. T'es rendu, ouais, quand même à un niveau...
Ouais.
Je veux dire, le next step, c'est d'être... de faire partie du ministère, puis
ouais,
peut-être que là, t'as
ouais,
moins...
Ouais. Tu sais, on a vu l'exemple en France, là. Là, j'oublie, c'est niaiseux, j'oublie son nom. Celui qui a démissionné, parce qu'il était allé en politique. C'est quoi son nom? J'oublie son nom, c'est vraiment bête.
Qui était à quel ministère?
Le Français qui est comme le militant qui a décidé d'aller au gouvernement puis qui a démissionné parce qu'il réalisait qu'il serait pas capable de rien faire. C'est
Alex va nous trouver ça.
Oui, oui, j'oublie son nom.
Le militant Quelqu'un... français qui a démissionné.
Dites-moi. Non. Et puis ça fait combien de temps que j'en parlais avec l'âge? 2 ans. C'est donc niaiseux. En tout cas, j'oublie son nom.
J'ai confiance en Alex.
Nicolas Hulot.
Oui, exactement.
Nicolas quoi?
Ça, Hulot.
Hulot?
Ça a fait tout un mouvement, parce que c'est comme s'il avait réalisé qu'il... l'impuissance totale, même au gouvernement, qu'il ne se passerait rien. Ouf, ça a frappé beaucoup d'écologistes et de militants. Je pense qu'on peut... Je parle plus de militants, là. Quand tu es quelqu'un d'engagé, qui a une connaissance scientifique de quelque chose, puis qui... Tu sais, les scientifiques du GIEC, là, ceux qui font les rapports sur les changements climatiques, c'est quand même pas des extrémistes, là.
Non, c'est ça.
C'est
un affaire de fait, là.
C'est la science. Fait quand... Quand il y a eu l'émission Minuit Moyenne pour la planète, là, puis que Radio-Canada dit, on reçoit des gens qui disaient, pourquoi vous n'avez pas mis des gens qui ne croient pas au changement climatique? Il dit, en 2000, on est passé cette date-là. Là.
Oui, c'est ça.
Il n'y en a plus de doute. C'est comme...
C'est qu'on n'a plus le temps.
On n'a plus dans les années 70.
On n'a plus le temps, oui.
Tu sais, c'est... Il n'y a plus question... Il n'y a plus personne de sérieux qui remet ça en question, là. Je veux dire, c'est un état de fait. On est passé en mode, que faut-il faire?
C'est ça.
Venons-en, là. Fait que là,
puis, quand tu communiques avec le gouvernement, ça te fait quoi d'être... j'espère, es-tu fière de toi de siéger sur ce conseil-là?
Fière, je sais pas. Moi, quand on m'a interpellé, parce que c'est le président qui m'a interpellé, Alain m'a dit, oh, est-ce que tu accepterais? Là, mon agenda déborde déjà. Ça, c'est, ouais, la première chose. Fait que je sais que j'ai tendance, quand quelque chose m'intéresse puis que je pense que ça va changer quelque chose, à dire oui, là, genre...
Mais il faut rester comme ça. Faut que tu gardes ça, tu sais, faut que...
Oui,
comme quand tu dis à tes enfants, faut rester choqué. Moi, mon père, encore une fois, des fois, me partage plein de sagesse. Ma mère aussi, et puis ça donne que là, je parle beaucoup de mon père aujourd'hui, mais, tu sais, à un moment donné, on parlait de Donald Trump, puis j'étais comme, ah, tu sais, t'es surpris vraiment, pape? Il est comme, faut jamais arrêter d'être choqué.
Puis
j'étais comme, ah, oh, mon Dieu, t'as raison.
Oui,
t'as raison.
Oui.
Ça m'a full aidé qu'il dise, oui, ça. Ça m'a vraiment été une petite illumination de comme, oh, faut,
oui,
jamais...
C'est,
puis
vrai.
Je trouve, oui, que... T'as raison aussi de dire ça.
Mais tu sais, ça me donne l'impression que peut-être que je vais pouvoir contribuer un peu. Mais j'essaie, là, tu sais, avec les connaissances qu'on amène. Mais tu sais, on peut pas... C'est comme, je veux dire, on n'est plus à la phase où on peut juste attendre qu'il se passe quelque chose. Fait qu'il faut essayer toute tentative.
Mais puis c'est
qui
tellement
pourrait
mieux.
Donner quelque chose.
C'est
on
tellement
l'essaye.
Mieux que juste le cynisme. Ouais. Ben, il n'y a plus rien à faire. C'est comme, mais là,
non,
si enfin, on peut en sauver une coupe, style, let's,
ouais,
go!
C'est ça. Ouais, ça... Fait que on essaye.
Catherine, je t'ai trouvé très généreuse avec moi. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je sais pas, c'est un sujet qui est tellement
c'est
large,
ouais,
et je suis tellement à mes balbutiements dans tout ça que j'espère quand même que cette conversation-là t'aura amené quelque chose à toi aussi et que c'était pas unidirectionnel.
Mais non, c'est toujours intéressant de discuter. C'est des enjeux quand même importants, là.
Vraiment.
Oui.
Y a-tu quelque chose qu'on n'a pas abordé que t'es comme, ça c'est quand même cool ou je sais pas quoi ou on a.
Je pense que quand on me demande ma vision sur le transport du futur, là, j'avais cité à une conférence puis à un moment donné quelqu'un a dit le voyageur du futur va être équipé de sa carte opus, son téléphone et ses souliers de course. j'aime beaucoup cette image. Parce que je trouve qu'on néglige beaucoup à travers le temps la marche puis les modes actifs. Puis je le redis souvent, la marche, là, c'est ce qui ça peut être vraiment t'amener loin. Puis la Belgique, je pense, a sorti une annonce, une vidéo qui est super drôle. C'est comme l'innovation du futur, puis c'est les pieds. Puis je l'ai montré à mes enfants, puis ça les a vraiment marqués. Parce qu'ils décrivent les pieds, comment c'est génial, comment c'est bien fait, comment c'est toujours disponible, comment c'est tellement super chouette. Comment ils ont... Puis là, je me dis, moi, je ne suis pas la seule cinglée à penser que ça, tout passe par la marche, puis que si on arrivait à faire des quartiers où la marche était plus facile, parce qu'on les sont jamais... Ici, il n'y a pas de trottoir, clairement. Tu sais, il n'y a pas toujours des environnements favorables, mais à la base, là, c'est... on est tous marcheurs. Tu marches vers le tour. Vers... Fait que je trouve que dans nos... On n'en parle pas assez de cette marche-là qui a tellement de bienfaits. Tu sais, activité physique, il y a plein de bienfaits. L'esprit de communauté, on parlait de... Il y a un concept de known strangers. Tu marches dans un quartier, tu sais, c'est quelqu'un que tu croises tout le temps, mais tu ne fais pas ça en auto, là. Tu ne vas pas marquer, mais quelqu'un qui est à pied, c'est des gens que tu ne connais pas, mais tu es comme en confiance parce que tu les croises puis tu sais qu'ils sont là. Je trouve qu'on a un peu perdu de vue là, la place, le rôle de la marche dans tous les milieux de vie. Je le ramène souvent. Milieu rural, peu importe, les modes actifs, là, on devrait toujours les prioriser dans tout ce qu'on aménage. Puis c'est peut-être le dernier message que je trouvais chouette.
Je trouve extraordinaire.
Les pieds. Écoute, c'est à mourir de rire, les
pieds.
C'est
ça, les pieds.
Je sais pas si c'est ça, mais c'est mou. C'est tellement drôle, là. Écoute, j'ai montré ça aux enfants qui me trouvent toujours un peu absurde, là. Mais ça montre, c'est ça, à quoi ça sert, les pieds. Dans une ville. Comme mode de transport, c'est la révolution.
Berté, c'est un voyage vers le bonheur.
C'est
un pas de
rire.
Plus qui nous pousse à aller plus loin.
Oui, je sais, mais je l'ai
cette plus liberté, nous l'avons cherchée pendant des années.
We spent years looking for an alternative mode
c'est
of
fascinant.
Transport for short distances.
Hey, Catherine Morancy, merci
et
tellement.
Enfin trouvé.
Plaisir.
Je te laisse aller parler
nous
avec le gouvernement maintenant.
Oui.
C'est super. C'est vraiment, vraiment cool. Unique. Ah, merci merci beaucoup. Puis ça a été vraiment un plaisir de te rencontrer. Merci de ta générosité. Puis
très, très chouette.
Je vais jamais arrêter de me choquer.
Oui, ça c'est bien.
Merci Catherine.
Merci.
Salut.